Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans La Cartouche, épisode 0, le podcast quinzomadaire qui se plonge dans le jeu vidéo d'aujourd'hui, entre actualités qui comptent les sorties du moment et les gens qui font vivre cette industrie. Comme à chaque numéro de La Cartouche, je suis accompagné de mon comparse. On fait du podcast ensemble depuis désormais 6 ans, c'est Lou Lassina-Foubert. Hello Lou.
Salut Yann, comment ça va?
Écoute, ça va bien, il est tard, donc c'est pour ça que je ne pousse pas la voix à mon maximum, mais je suis très heureux d'être là avec toi pour parler de choses tout à fait nouvelles, puisqu'au sommaire de cet épisode spécial, on va tout d'abord parler du lancement de la Nintendo Switch, ce que vaut cette nouvelle machine, pour ensuite se diriger vers Zelda Breath of the Wild et donner notre avis de joueur avisé, sachant qu'on y a joué, et bien évidemment, sur Nintendo Switch également. Petit rappel, cet épisode est un épisode zéro. Cette émission, La Cartouche, commencera véritablement en septembre 2015. On a déjà eu l'occasion
2017.
De faire... 2017, pardon.
Oh là là.
On a déjà eu l'occasion de faire en privé un pilote de la formule normale qu'on ne va probablement pas publier.
Oh.
L'épisode que vous écoutez maintenant, par contre, c'est pas la formule normale, c'est l'occasion de tester la formule événement de l'émission qu'on osera déclencher pendant tout le 3 lors de la sortie d'une console et à d'autres occasions du même acabit. Et on commence tout de suite, si tu veux, Lou, avec le premier sujet de cette émission, qui est donc la Nintendo Switch. La nouvelle console de Nintendo est sortie le 3 mars 2017, c'était un vendredi comme d'habitude, dans le monde entier, figurez-vous. Et alors, j'aimerais qu'on attaque, pour commencer, le matériel, la console en elle-même, le hardware, comme on aime bien dire, vraiment dans son caractère le plus froid et le plus de plastique. Qu'est-ce que tu en penses, une fois unboxé, de la Nintendo Switch?
Bah écoute, l'objet en lui-même, je dois dire que j'étais relativement surpris. Déjà, je l'ai trouvé... petite, mais agréablement petite, tu vois. J'avais peur que ce soit trop grand et tout. Je me souviens de la mablette Wii U qui pour moi était un léger traumatisme quand même, il faut l'avouer. Et bien là, c'est tout le contraire en fait. C'est tout en fait ce que la Wii U aurait dû être pour moi, la Switch. Donc quand je l'ai vue pour la première fois, j'ai été assez emballé. J'ai pas eu la chance de la découvrir en janvier comme beaucoup de journalistes, mais j'étais un petit peu hypé quand même. Et puis Zelda, tout ça, le trailer, j'ai fini par la précommander fin janvier. J'ai failli annuler ma précommande quand même pour diverses raisons. Finalement, je me suis dit, bon, de toute façon, pour le boulot, je vais en avoir besoin, donc autant aller jusqu'au bout. Et on l'a reçu du coup à Numérama, et j'ai eu la chance du coup de pouvoir la voir. Et vraiment, j'ai été agréablement surpris par la qualité déjà du plastique, qui ressemble pas du coup à ce plastique brillant, tu vois, de la Wii U, qui avait un petit côté play school avec tous ces trucs arrondis, enfin très très enfantin finalement, la Wii U à côté. Et là au contraire, on a un truc assez élégant, des lignes assez assez épurées, assez simples, pas trop de rondeur aussi. Et il a la prise en main et au final extrêmement agréable, tu vois. J'avais peur que ce soit lourd, c'est pas du tout le cas. Après, moi, c'est vrai que j'avais pas dans l'optique d'y jouer de façon portable, parce que je suis pas vraiment un joueur de portable, contrairement à ce qu'on pourrait croire à cause de Pokémon.
Exactement.
Mais ouais, je joue peu en fait à la portable, c'est extrêmement rare. J'y joue que pour Pokémon d'ailleurs, sur 3DS quasiment.
J'ai cru que t'allais me dire non, mais moi j'ai un Game Boy Player, mon ami. Tous les Pokémon, je les ai fait sur GameCube.
Mais pas sur GameCube, mais tu sais, je les faisais beaucoup sur Nintendo 64 avec l'émulateur, c'est le transfert.
Avec le transfert,
enfin bref,
exactement.
Autre histoire. Mais là, du coup, j'ai en fait seulement 3 prises HDMI de sur ma télé, enfin 4 si je compte la box télé. Et ma Wii U est encore branchée. Et je t'avoue que j'ai la flemme, comme je déménage bientôt, de la débrancher, de brancher une nouvelle console. Et du coup, je me dis, bon, je vais jouer à la Switch en version portable. Et ben ça marche bien, c'est extrêmement beau. Je dois dire que Zelda m'a quand même foutu une sacrée claque en termes de... Enfin, on va en reparler après, parce qu'il y a des plus, il y a des moins au niveau de la technique.
Ce qui est impressionnant, c'est que c'est sur une machine qui est moins épaisse qu'une Game Boy Advance. Et pour quelqu'un qui a connu les Game Boy Color, Game Boy Advance, avec vraiment l'épaisseur du truc, tu parlais tout à l'heure de l'épaisseur du gamepad de la Wii U, bien sûr, qui était monolithique, mais qui en même temps pouvait résister au choc assez facilement, du coup.
Oui.
Ça, c'est un avantage du camp Wii U. En ce qui concerne l'épaisseur de cette console-là, c'est vrai que c'est impressionnant la première fois. Après, je remarque une chose assez importante, parce que toi, tu y joues vraiment en portable. C'est tout le paradoxe de cette console, en fait. Parce que si tu y joues en mode portable, donc avec les Joy-Con attachés, les boutons attachés au bord de l'écran, tu as la console probablement la plus large qui existe actuellement sur le marché en termes de ratio. Tandis
que
si
c'est
tu
pas
joues,
gênant, hein.
Si tu joues avec les Joy-Con dans le Joy-Con grip, tu joues avec la manette la plus étroite.
La plus petite, oui. Ah, ça, j'ai beaucoup de mal. Je t'avoue que juste le Joy-Con grip, ça me, j'ai beaucoup de mal. Je préfère encore jouer avec les Joy-Con détachés, en fait. Enfin, c'est chacun dans une main et un peu comme Wiimote Nunchuk, si tu veux, tu vois.
Ça, c'est une bonne solution, mais j'ai même pas vraiment de problème avec le Joy-Con grip, si ce n'est que derrière le Joy-Con grip, c'est très étonnant, il y a un espèce de petit anneau, en fait. On dirait qu'on peut accrocher à un porte-manteau le Joy-Con grip et je trouve ça très étrange. On dirait presque en fait qu'on peut le raccrocher sur un étal de supermarché. Je sais pas vraiment ce qu'ils ont voulu faire avec ça, s'il y a un but, parce qu'en plus derrière c'est même pas un Joy-Con, derrière c'est la partie plate centrale du Joy-Con grip, donc je vois vraiment pas où ils veulent en venir avec ça.
Je t'avoue, je me suis pas posé la question, mais connaissant Nintendo, tu sais, ils ont toujours des petites features qui servent ou pas d'ailleurs, hein. Des fois ils les utilisent, des fois ils les utilisent pas, mais il y a toujours deux trois petits secrets, tu vois, qui vont peut-être se dévoiler plus tard.
On l'a vu d'ailleurs avec le pad Switch Pro, avec lequel, enfin, à l'intérieur duquel, si tu bouges un peu le stick, c'est marqué Thanks to all players ou quelque chose dans le genre.
Mais du coup, enfin, pour revenir du coup au Joy-Con, oui, j'étais assez sceptique quand même sur la petitesse en manette simple, tu sais, à un joueur.
Et pourtant,
et j'ai juste testé la prise en main et ça fonctionne plutôt pas mal. Je dirais même c'est plus agréable qu'une Wiimote.
Ce qui m'a bluffé. Alors, les gens se sont plaints de la taille des boutons. Personnellement, j'ai pas de problème avec ça. Donc, c'est vraiment une question de goût personnel. Et pareil, je craignais beaucoup pour les boutons plus et moins. Je n'ai aucun problème avec.
Au final, ouais, ça va.
S'il y a un reproche à faire au Joy-Con spécifiquement, c'est les gâchettes. Et surtout L et R, qui sont plus petites et pourtant qui sont censées être les gâchettes principales comparées à ZL et ZR. Ce qui est notamment dans Zelda, ce qui est un petit peu problématique parce qu'elles sont extrêmement fines, donc extrêmement difficiles à trouver. Enfin, extrêmement difficiles. Plus difficiles à trouver, en tout cas, que ZL et ZR. Et pour vous dire, non, voilà. C'est très honnêtement, je suis assez satisfait des Joy-Con et surtout, le gyroscope à l'intérieur de chaque Joy-Con fonctionne admirablement bien pour de la visée, par exemple. J'ai vraiment hâte de jouer à Splatoon sur Switch parce que, bah voilà, ça marche bien.
Ah, moi écoute, il y a un truc qui m'a bluffé, c'était justement en parlant de gyroscope, c'est un sanctuaire dans Zelda, je vais pas trop spoiler, mais
il y en a tellement.
Oui, il y en a un. Il y en a un en particulier. Uh-huh. Enfin, il y en a peut-être pas qu'un, d'ailleurs, qui repose sur cette mécanique-là. Tu sais, t'as une sorte de bille dans un labyrinthe.
Exactement.
Il faut que tu bouges, en fait, la Switch.
Oui.
Comme si c'était le labyrinthe.
Oui.
Et c'est hallucinant de précision, quand même. Donc, c'est
extrêmement
c'est
précis.
Au poil de cheveux.
Et ça se voit parce qu'ils ont, les gens qui auront joué qui auront fait ce sanctuaire-là dans Zelda Breath of the Wild comprendront ce que je dis par là, mais ça se voit qu'ils n'ont pas implémenté de restrictions qu'ils auraient dû implémenter dans d'autres jeux, pour notamment des raisons de calibration. Et ça, c'est extrêmement chouette. Et encore une fois, là, pour l'instant, je n'ai pas vu dans un jeu Switch de, pour l'instant, alors je vais pas jouer évidemment à tout ce qui est disponible sur l'eShop aujourd'hui, mais j'ai pas vu de jeu Switch qui demande de recalibrer le gyroscope. Et ça.
Ça fait plaisir. Hein.
C'est très bien. Ouais, voilà.
Après le Wii Motion Plus, quand même, ça fait du bien.
Bah, en fait, ils ont réussi à l'intégrer dans le flow du gameplay, simplement à dire, à partir du moment où tu presses, bah, voilà la nouvelle position neutre du gyroscope, point à la ligne.
Il y a quand même 2-3 points noirs, parce qu'on est, tout n'est jamais tout blanc, bien évidemment.
Ouh là là,
moi, j'ai un petit peu de mal avec le, alors, c'est un placement logique, mais j'ai un petit peu de mal avec le placement des boutons et du joystick sur, le Joy-Con droit, en fait.
Ah, tu vois,
le
fait que. Aucun problème avec, c'est incroyable. Vrai.
Moi, j'aurais bien voulu les joysticks au même plan, finalement. Mm-hmm. Tu vois. Garder cette, pourtant, je sais que sur les manettes, c'est pas vraiment le cas. Enfin, si sur le Pro Controller de la Wii U, c'était le cas, par exemple.
Mais j'aurais trouvé ça plus pénible, paradoxalement, parce que ça aurait forcé à pousser, à mettre le pouce un petit peu sous la forme d'un crochet. La plupart du temps, c'est les boutons de fond ABXY que tu vas utiliser, pas le stick droit qui est souvent un stick plus secondaire.
Ouais, je sais pas trop. C'est en termes d'ergo dans la façon dont je tiens, j'aurais préféré que les boutons soient plus bas justement au final. Juste par la façon dont je tiens peut-être mes autres manettes, question pas rapide. Et pareil sur les boutons de tranche, c'est vrai que mes doigts se posent moins naturellement, mes index sur le bouton L et R, et j'ai plus tendance à sortir les autres boutons, ce qui est un petit peu problématique parce que dans Zelda j'utilise vraiment tous les boutons et pas forcément de façon optimale, ça j'en reparlerai plus tard. Mais
c'est amusant parce que moi les boutons avec lesquels j'ai le plus de problèmes, c'est les boutons de volume qui sont sur la Switch eux-mêmes et qui, quand tu as les Joy-Con en main, sont extrêmement difficiles à atteindre parce que ta main doit faire tout le tour en fait du côté gauche.
Mais après, je trouve que c'est le concept en lui-même est tellement sympa d'avoir cet écran qui se balade et tu peux le poser avec. Alors par contre, j'ai vraiment très très peur du petit
du pied.
Comment dire, du pied. Ouais,
il se détache. Il se détache,
ouais,
volontairement.
Il se détache, mais justement, il a l'air tellement
T'as
fragile.
Peur qu'il se pète en deux.
Ouais, clairement, qu'il se pète en deux ou enfin qu'il se pète tout court d'ailleurs. Enfin, mais malgré tout, c'est assez cool de pouvoir poser sa console comme ça. Enfin, mm-hmm. la multiplicité des usages, c'était pas un truc que je trouvais utile en fait au final. Et en fait, ça te donne un nouvel usage au final. Une fois que tu l'as, tu te dis, c'est cool.
Ça se révèle utile.
Aussi pour pinailler le côté clipsage, déclipsage des Joy-Con, justement, parce qu'on parle de des multiples usages. Mm-hmm. Des fois, ça accroche un petit peu. C'est pas hyper optimal. J'ai l'impression que ça coulisse pas très bien. Ouais. Alors, je comprends en soi que le comment dire, la mécanique est assez complexe. J'allais dire complexe. C'est juste que c'est pas un truc naturel, tu vois. C'est un truc à clipser, déclipser. C'est pas un truc que tu fais tout le temps avec tes manettes et tout. Mais je trouve qu'ils auraient pu affiner le process et que ce soit un peu plus smooth, on va dire. Des fois, ça coince. Des fois, il faut forcer. Enfin, tu sens que c'est pas, ça fait un peu bricolage par moment.
Je vais le faire près du micro avec le grip et un Joy-Con juste pour avoir le bruitage dans le podcast. Voilà.
Tu es très pro, toi tu le fais très bien apparemment. C'est peut-être moi qui suis pas doué.
On est très proche de l'ASMR. Ceci dit, j'ai dû un petit peu bricoler avec mes doigts pour faire en sorte que ce soit correct avec le micro. Deux, trois petites choses me concernant le matériel, toujours et rapidement. Donc oui, effectivement, j'ai pas trop de problèmes d'ergonomie avec, si ce n'est les boutons de volume, mais très franchement, c'est différent pour tout le monde selon les mains. L'antenne Wi-Fi est poussive. Si dans mon cas de figure par exemple tu es au premier étage et que le routeur Wi-Fi est au rez-de-chaussée, comparé à plein d'autres appareils, l'antenne Wi-Fi de la Switch est beaucoup plus faible, et là où j'ai généralement sur 3 barres 2 ou 3 généralement avec par exemple mon téléphone ou une tablette, là je suis à une barre, et ça va, j'arrive à télécharger, j'arrive à utiliser les fonctionnalités en ligne sans trop de problèmes jusqu'à maintenant, mais...
C'est pas optimal, quoi.
C'est pas optimal du tout, et ça se sent qu'il y a eu, ils ont rogné là-dessus d'une manière ou d'une autre, que ce soit pour des raisons simplement de place à l'intérieur du châssis, ou pour des raisons de coût. Le dock est un gros problème actuellement, c'est un petit peu difficile, il y a plein de gens qui se plaignent d'éventuelles rayures, il y a plein de gens qui se peignent d'avoir reçu des docks qui étaient pliés, défoncés à l'intérieur de la boîte sans rien avoir fait en achetant la console. Il y a un gros problème dans la manufacture du dock apparemment, et pourtant le dock coûte cher. Là, Nintendo a retiré de la vente en ligne les docks vendus séparément, donc ils vont peut-être en changer. C'est un signe, en tout cas, il n'y a pas eu de déclaration officielle pour l'instant. Ils sont beaucoup trop occupés à célébrer les ventes au jour où on enregistre cette émission, donc le mardi 7 mars au soir. C'est un petit peu dangereux. Mettez un film protecteur sur votre console. Il y en a un qui vient avec la sacoche officielle, qui est pas encore trop cher vu que ça contient à la fois une sacoche officielle qui en même temps d'ailleurs peut faire repose machine sur le côté. C'est très bien. Il y a une espèce de petit trépied en mousse qui est inclus avec dans le truc qui sert à la fois à stocker les cartouches et à balancer la console si jamais on veut y jouer dans la sacoche. C'est assez fantastique. Donc franchement, c'est officiel. C'est une des rares fois où Nintendo fait une sacoche officielle. Tenez le bruit de la sacoche dans le podcast également. Fantastique. C'est beaucoup de bruitage de la vie réelle. La cartouche, je crois qu'on découvre ça en même temps qu'on le fait.
Ah, la cartouche, justement, tu le dis, le plaisir de retrouver des petites cartouches. Enfin, ça me fait plaisir, écoute. Je sais pas pourquoi.
Pour les gens qui ont vécu sur Mars pendant que tout le monde les a montrées, les cartouches Switch qui sont à peu près le même format que les cartouches Vita. Pour faire très simple.
Toutes
et c'est
petites.
D'ailleurs pour ça. Comme pour la Vita d'ailleurs, que le port cartouche est caché derrière un petit cache. Il y a beaucoup de cache dans cette phrase-là. On aurait presque pu faire une allitération. Donc oui, mettez un film de protecteur. Ceci
j'ai
dit,
une
vous
question
allez...
con.
Ah oui, vas-y.
Excuse-moi, t'as goûté ou pas?
Non.
Moi, j'ose pas avec mes cartouches. Je veux pas lécher mes cartouches. Je vais piquer la cartouche à un pote pour goûter.
Déjà, qu'est-ce que tu vas faire à lécher les connecteurs d'une cartouche? Ça va pas.
Bah, c'est
et
juste.
En plus,
non, mais c'est juste pour savoir. Ils ont mis, donc du coup, j'ai oublié le nom de ce truc en trois mots là, qui est donc la chose,
le produit
le plus amer.
Voilà. Qui sert généralement à faire en sorte que les enfants n'avalent pas des petites pièces.
Et comme j'aime pas le goût amer, j'aimerais savoir ce que c'est que le pire goût amer du monde, en fait.
Oui, mais alors la question que je me pose derrière, c'est pourquoi est-ce que t'as envie de t'infliger ça, je veux dire.
C'est curiosité malsaine, tu vois. C'est le feu, ça brûle. T'aimerais savoir pourquoi.
Ouais. Non, non. Autant tu vois, je comprends la volonté parce que c'est de la nourriture de morte dans un piment très élevé, enfin très très fort. Ça, je comprends. Mais lécher une cartouche avec le risque de potentiellement peut-être user ou ruiner ta cartouche.
C'est pour ça que je veux pas lécher une des miennes.
C'est ça. Donc tu vas toquer aux portes de tous les journalistes jeux vidéo de Paris en demandant. Je peux lécher ta cartouche. Ça va être. Je pense que tout le monde va le prendre correctement. Donc oui, juste pour finir mon histoire sur le film Protecteur, pour le coup, mettez-en un. Par contre, il y a de très bonnes chances que vous vous retrouviez avec un tout petit peu de poussière dessous, mais vous inquiétez pas. Enfin voilà, c'est le genre de choses qui arrivent parce qu'il y a forcément de la poussière qui flotte dans l'air, à moins de vraiment de faire ça dans un environnement stérile, de le doxer dans un environnement stérile
et d'espérer,
qu'il n'y a pas la moindre poussière dans la boîte quand vous l'unboxez déjà. Il n'y a pas vraiment 15 000 solutions. Les Joy-Con, effectivement, le gimmick est très malin, je ne vais pas ajouter quoi que ce soit. J'aimerais quand même ajouter un truc dont je suis très heureux qu'il ne soit pas avec la Nintendo Switch, c'est un stylet. Il y a pas de stylet débarras.
Ah tu trouves ? Ah non, moi c'est un problème. Moi franchement de devoir ça me manque. Ah, ça me manque clairement, j'en parlais avec Mila-chan, je crois.
Perdre, c'est des risques de rayer l'écran. Mais
est-ce que t'as déjà perdu seul stylet ?
On est enfin sur un écran tactile qui fonctionne avec l'électricité des doigts. Je crois que le terme c'est capacitif, mais je veux pas dire de
oui, prénom. Mais moi tu sais, j'ai les mains souvent moites et du coup c'est très sale dès que j'utilise
mais
un écran.
Mais tu peux toujours, avec ce type là d'écran, ceci dit, tu peux acheter dans le commerce des stylets qui fonctionnent et qui transmettent l'électricité des doigts. Il y en a. Je veux dire, ils en ont fait pour l'iPad et pour l'iPhone quand il y avait pas l'Apple Pencil, donc il y a des solutions de ce côté-là, de toute façon, dans le commerce, au pire des cas.
Ouais, mais c'était quand même pratique. Et franchement, une petite encoche pour foutre un stylet. Enfin, moi, j'ai jamais perdu un seul stylet de mes consoles.
Sur le système d'exploitation de la Nintendo Switch maintenant, Lou.
Ah, écoute, l'interface, qu'est-ce qu'elle est beaucoup plus claire, beaucoup plus agréable que celle de la Wii U. On revient à quelque chose de beaucoup plus essentiel, en fait, beaucoup plus simple et épuré, qui quelque peu rappelle l'interface de la 3DS. En encore plus épuré. Donc moi j'aime beaucoup l'interface de la 3DS que je trouve très simple, très clair, personnalisable en plus. Donc là c'est pratique. Et là tu vas à l'essentiel, tu vois tes jeux, tu vois tes petites chaînes en bas, mais t'as plus 36 000 trucs qui servaient à rien, tes putains de mi qui se promenaient et tout. Enfin c'est rigolo la première fois, mais après c'était relou. C'était franchement honnêtement c'était relou pour rien. Là on met les mi un peu de côté, ils sont toujours plus ou moins présents si on veut, mais on n'est plus obligé. Là aussi j'ai envie de dire bon débarras parce que c'est saut siècle dernier quoi. Enfin pas vraiment parce que là oui ça date d'après les années 2000 mais mais je pense que c'est bien, on en a soupé des mi, c'était le symbole de moi le Nintendo qui m'a un petit peu déçu parce que c'était toutes ces versions casu et tout ces trucs sacrifiés un petit peu, tu vois les Mario Party devenus les Wii Party machin, enfin bref. Et du coup c'est bien de revenir à l'essentiel, c'est-à-dire les jeux, des avatars de héros de jeux vidéo tout con, les codes amis par contre, le retour des codes amis, ça je pensais qu'on avait fini mais relou hein, franchement là par contre gros point noir franchement.
Ceci dit, tu ajoutes quelqu'un et la personne n'a pas besoin de t'ajouter derrière, elle est notifiée.
Oui,
ce qui est déjà un pas en avant, d'autant que Nintendo a annoncé qu'il regardait à éventuellement ajouter d'autres méthodes d'ajout par le mode en ligne, probablement par pseudo.
Oui, puis t'as les ajouts par Mitomo déjà qui sont déjà assez pratiques si t'as téléchargé déjà Mitomo auparavant ou ce genre de choses. Donc
oui,
tu peux retrouver plus rapidement qu'avant, c'est sûr, par rapport aux anciens codes amis où il fallait que chacun entre le code et tout. Là, c'est moins fastidieux, mais ça reste trop fastidieux par rapport à ce qu'on propose sur les autres consoles, quoi. Je veux dire, là, ça fait troisième génération, on doit à chaque fois reconstituer une liste d'amis. Franchement, c'est un petit peu relou, quoi.
C'est là que tu vois que c'est moyennement pensé, parce que Mitomo derrière, comment tu ajoutais les gens sur Mitomo, la plupart du temps, tu les ajoutais via Twitter et via Facebook. Tu peux ajouter Twitter et Facebook sur ta Switch, mais uniquement pour partager les captures d'écran, et il ne peut pas du tout gérer ce genre-là d'informations, dire « Regarde, il y a tel et tel de tes amis Facebook ou Twitter qui sont sur Switch et que tu peux ajouter. » Donc là, l'intégration n'est pas poussée à fond, et utiliser, comment dire, Mitomo ou Super Mario Run comme cheval de Troie pour ajouter tes amis, ça sent le truc à moitié cuit, pour le coup. Enfin bref. Concernant l'eShop également, tu as quelque chose à relever.
Oui, bah alors moi, ce que je déplore aussi, c'est que c'est la troisième génération où la console virtuelle existe, et on n'est pas foutu de l'avoir au lancement de la Switch, quand même. Enfin, c'est des vieux jeux, tout le monde y a joué et tout, et même moi, ça fait 10 fois que je finis Donkey Kong Country, d'ailleurs, à tel point que j'y rejoue aussi en émulation en ce moment, mais c'est juste que je veux récupérer ces jeux encore une fois sur Switch pour pouvoir les lancer de temps en temps sur une console portable parce que ça peut être sympa. Ouais. Surtout s'il y a des nouvelles fonctionnalités qui peuvent s'ajouter, qui peuvent être très cool, comme par exemple ce qu'ils avaient fait avec Pokémon sur 3DS, les versions bleu et rouge qui étaient compatibles pour des échanges un peu plus modernes du coup. Donc ça c'est bien s'ils peuvent retoucher un petit peu ces jeux de l'époque pour proposer 2-3 petits trucs en plus, pas forcément tout refaire, hein, c'est pas ce que je demande. Ça peut être très très bien, mais c'est dommage que ce soit pas au lancement. Je pense que c'est un argument quand même de poids auprès des vieux joueurs nostalgiques auxquels j'appartiens désormais maintenant, étant donné mon grand âge.
Très bien. Me concernant sur le système d'exploitation, tout d'abord, j'aimerais soulever une chose, c'est que le système d'exploitation est enfin pour une console Nintendo, surtout après la Wii U, est au service de l'expérience de jeu. Et c'est même, ça faisait longtemps qu'on attendait ça chez Nintendo, c'est même parfois une rareté, même chez les concurrents, où réellement, ce système-là n'impacte absolument pas, ne te gêne absolument pas, bien au contraire. Quand tu veux reprendre ta partie, ça se fait de manière très rapide. Le système de veille fonctionne de manière extrêmement fluide et efficace. Je veux dire, tu appuies sur le bouton, la console part en veille. Tu rappuies dessus, tu te reconnectes. Il y a juste aucun temps d'attente. Tu es simplement replongé dans le jeu sans ralentissement, sans rien. Voilà, c'est simple, c'est rapide, c'est fluide, et même quand tu n'es pas connecté à Internet, il vient pas te dire toutes les 5 secondes « Mec, je ne suis pas connecté à Internet, s'il te plaît, connecte-moi à Internet pour faire les mises à jour, les synchronisations de si, le truc là, le truc là. » Non, la console te dit simplement « Eh ben non, t'es pas connecté à Internet, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse ?» Sinon, c'est designé de manière simple et efficace, le premier lancement fonctionne très bien, c'est un premier réglage très satisfaisant à faire, ça se fait très vite, tu crées ton petit profil et ça fonctionne bien. D'ailleurs, la création et l'utilisation des comptes et aussi des sauvegardes de jeux, du coup, fonctionnent également très bien, si ce n'est grand bémol qu'on ne peut pour l'instant pas exporter les sauvegardes sur une autre console
ça
ou sur une carte
flippant,
SD.
Hein.
Les seuls qui sont capables de faire ça aujourd'hui, c'est le SAV de Nintendo si jamais tu as un problème avec ta console. Donc c'est gênant, c'est le même genre de choses gênantes que tu n'as pas de possibilité d'acheter un nouveau gamepad pour ta Wii U, donc tu es dépendant de Nintendo pour avoir un gamepad qui fonctionne, ce qui va devenir assez problématique quand cette console va vieillir et qu'il va falloir la conserver et la garder en vie entre guillemets simplement pour des raisons historiques, pour par exemple créer un musée.
Je pense qu'elle est déjà morte, là, de toute façon, la console.
La console, oui, mais espérons quand même qu'on puisse en conserver des traces, parce qu'il y a des jeux qui sont inédits dessus.
C'est le cas, mais enfin, les jeux inédits dessus, tu sais très bien qu'ils vont ressortir sur d'autres supports plus tard, de toute façon, donc.
La gestion des jeux fonctionne très bien. D'ailleurs, la petite fonctionnalité d'archivage, si jamais tu veux te débarrasser d'un jeu téléchargé de la mémoire, que ce soit ta carte SD ou la mémoire interne de la console, fonctionne également très bien. L'idée, c'est qu'il garde ta fichier de sauvegarde et l'icône du jeu sur le système de la console, et si tu essaies de le lancer, il va aller télécharger, il va te demander de télécharger le jeu que tu as supprimé mais en gardant le reste, ce que je trouve extrêmement malin. Et enfin, l'identité visuelle et sonore est bigrement chouette. On peut d'ailleurs passer dans un espèce de petit mode nuit où toutes les icônes, tous les fonds passent en noir, ce qui est très relaxant pour les yeux, et en ce que, encore une fois, tous les appareils électroniques devraient proposer par défaut, tous les programmes devraient proposer par défaut un mode nuit qui ne te défonce pas les yeux quand tu l'allumes à 3 heures du matin. certains trucs sont difficiles à comprendre, comme éteindre la console. C'est une petite manipulation assez compliquée à base d'appui long sur se faire la touche home, histoire de pouvoir accéder à un menu. Sinon, on ne propose que d'y aller en veille. Ce qui est pas une mauvaise chose, mais de temps en temps, t'as quand même envie de l'éteindre.
Ouais. Bah, surtout vu l'autonomie, quand même. On en a pas parlé, mais c'est vrai que l'autonomie, c'est pas terrible, quoi. Il faut dire ce qui est. Tu dois vite
Nintendo
recharger.
Dès le départ, ceci dit.
Oui, c'est vrai. Mais après, le gros point positif quand même, parce que même si je suis pas content de l'autonomie, je pense que personne n'est vraiment content, c'est qu'enfin, ils abandonnent le format propriétaire pour la recharge, on passe à l'USB type C, ce qui est quand même très très bien, même si les chargeurs USB type C, c'est pas encore les plus répandus. C'est quand même pratique, quoi.
J'ai vu sur Internet des gens qui avaient peur de mettre leur console dans leur dock pour les raisons qu'on a citées plus tôt dans l'émission, qui ont décidé de mettre une prise USB type C, femelle, à l'intérieur du dock, et en fait de faire sortir ça avec un câble d'extension, histoire de profiter du dock sans vraiment la docker.
C'est une astuce.
Ce qui est une astuce comme une autre, puisqu'évidemment, il n'y a pas de port HDMI directement sur la Switch. Et puis parfois c'est extrêmement vide l'OS de la console, notamment l'eShop. Il y a pas grand chose, il y a pas beaucoup de menus, il y a pas beaucoup de réglages. Accéder aux paramètres de l'eShop, c'est une petite aventure. Et c'est parfois même lacunaire dans la gestion des sauvegardes de jeux. On le disait également dans la gestion des amis dans le mode en ligne, dans la gestion des accès à Internet avec des types d'informations, notamment pour rentrer complètement son login si ton point d'accès est en WPA2 en termes de sécurisation. Tu peux mettre un mot de passe, mais tu peux pas mettre un nom d'utilisateur. Pourtant, il y a certains accès en WPA2, par exemple celui de mon université. Alors bon, voilà le mec qui veut jouer à lui en ligne sur sa Switch à l'université, mais elle est portable, je fais ce que je veux. Il y a des pauses parfois entre les cours. Je peux pas mettre le nom de l'accès, mon nom de compte pour cet accès-là. Du coup, je n'arrive pas à m'y connecter. Enfin, dernier point et non des moindres, l'eShop est ultra cher en Suisse et également en Australie. Il y a une inflation des prix sur le démat qui est incroyable. Bomberman à 70 francs suisses, autour de 68 euros.
C'est pas possible.
Autour de 68 euros, Zelda autour de 80 et quelques, et One to Switch autour de 68.
Wow, c'est surréaliste.
Ce qui est impressionnant, je sais pas exactement ce qu'ils cherchent à faire avec ça. J'espère qu'ils retomberont sur terre à un moment. Mais ouais, pour l'instant, ils nagent en délire complet. Et très franchement, ce genre de pratique commerciale de la part de Nintendo Suisse ou Nintendo Europe, c'est tout simplement déplorable de faire payer une majoration de 10 à 20 francs sans aucune explication. D'autant plus sur le format dématérialisé qui, on l'a vu, a plus aujourd'hui de désavantages que d'avantages en ce qui concerne la Switch aujourd'hui, notamment à cause de la capacité de stockage de la console qui est extrêmement limitée.
Enfin, même pas. 32 gigas pour la totalité. Voilà. En vrai, t'as que 26 gigas, si je me souviens
d'ailleurs,
bien.
Petite parenthèse, on parlait d'éteindre sa console qui n'est pas un truc qui est proposé par défaut, enfin, facilement sur l'OS de la console. C'est nécessaire de le faire quand, par exemple, vous voulez changer la carte SD qui est à l'intérieur. Parce qu'évidemment, la console peut à tout moment travailler sur la carte SD. Si vous avez un jeu qui est mis en stase et que vous allez faire quelque chose d'autre dans les menus et que vous y revenez. Donc, du coup, vous avez intérêt à éteindre la console en entier avant de retirer ou d'ajouter ou de changer la carte SD que vous avez insérée dans votre Nintendo Switch. Enfin,
après, oui, pour vite fait, si tu me permets juste deux petites phrases sur l'interface, oui. Justement, tu parlais de la veille. Ce que je trouve extrêmement pratique, c'est que c'est méga rapide à mettre en veille et à reprendre ta partie.
C'est incroyable.
Vraiment, en deux secondes, quand tu vois à quel point c'était relou sur 3DS, je sais pas si tu te souviens, pour passer, revenir au menu Home dans certains jeux, mm-hmm, c'est interminable. T'as 5-6 secondes de latence
fluide.
Et tout.
L'OS est
incroyablement super fluide,
ouais,
super rapide. Et pour revenir à ces menus que tu trouvais un petit peu vides, moi j'aime bien ce qui est épuré, même s'il manque des, fonctions. On n'a pas d'explorateur, on n'a pas de, on n'a pas d'app, tout ça. Mais c'est juste que là, tu vois que tout est vraiment pensé exclusivement quasiment pour le jeu. J'ai l'impression, alors c'est une comparaison un peu audacieuse, mais j'ai l'impression qu'on a une sorte de Netflix, tu vois,
du
jeu vidéo. Pour la comparaison avec Netflix, c'est-à-dire que, enfin, je sais pas si t'es un consommateur de Netflix, mais
absolument.
Tu vois les séries directes, tu vois que ça, il y a que ça. Tout de suite, en t'appuies sur deux boutons, c'est bon, tu vois ta série et tu cherches. Et là, c'est pareil. T'as que deux boutons, t'as pas plein de menus.
Et là,
t'es pas submergé. Tout est extrêmement clair. Alors oui, il manque des trucs. J'espère que ça viendra, mais j'espère qu'ils garderont cette clarté, cette efficacité dans l'interface.
Tout à fait d'accord. Ils doivent continuer dans ce sens-là parce que je pense que c'est ce qui permet de différencier la console. Et bah voilà, c'est simplement
mais
sa qualité.
Regarde, par exemple, avec la Xbox One et son aspect multimédia, moi je trouve que le menu de la Xbox One était déjà pas une réussite à la base. Ils l'ont un petit peu amélioré, mais je le trouve décevant par rapport à ce qu'avait réussi à faire la Xbox. C'était quoi avant la One?
La 360. C'était quoi? C'était leur plus grand succès.
C'était, oui, j'avais oublié le nom. Je l'ai, j'ai tellement joué, j'ai passé des centaines d'heures, mais bon. La 360, je crois qu'il y avait eu un truc entre les deux, je crois que la 360 c'était la première, non, c'était Xbox ou quoi. Je suis un petit peu fatigué. Mais voilà.
Bien, tu sais, la personne qui oublie le nom de son mari après avoir vécu 15 ans avec.
C'est exactement ça, c'est la même chose. Mais du coup.
Paul?
Je trouve que l'interface de la Xbox One est décevante parce que, menu sous menu, tu vas à droite, tu vas à gauche, t'as des trucs. Et là, non, t'as rien de tout ça, là tout est clair et j'aimerais tellement retrouver ça sur les autres consoles, ce serait vraiment bien.
Voilà. Y compris sur 3DS.
Ouais, d'ailleurs, c'est vrai qu'il y a encore des petits trucs à améliorer, mais la 3DS ça passe encore. Si vous pouvez surtout mettre la fluidité qu'il y a de la Switch sur 3DS,
ah,
c'est bon.
Ça. Mettez-nous plein de barrettes de RAM. Dernier point, le concept de la console à emporter partout, alors ça marche?
Ouais, alors écoute, pour moi, j'ai vu la vanne, je ne sais plus qui l'a faite sur Twitter, mais je lui pique pardon, peut-être que tu retrouveras. C'est un trope dans la mare, je crois, peut-être. C'est plutôt la console portable à emmener au salon, pour être honnête.
C'est tout à fait ça.
Parce que Zelda, clairement, en version dockée, il y a des problèmes au niveau du framerate. C'est vraiment dommage. En version portable, c'est extrêmement beau. T'as des tout petits soucis de framerate dans la zone de départ sur le plateau du prélude, ce qui est un petit peu dommage parce que quand tu commences ton jeu par des problèmes de framerate, ça augure pas du bon. Mais heureusement, ça concerne que vraiment le début, ce qui est un petit peu étrange. Pourquoi juste cette zone-là, je sais pas trop. Mais du coup, c'est vrai que ces problèmes deviennent plus prégnants une fois que tu passes en version dockée parce que 900p au lieu de 720, upscalé en 1080, enfin bref, tout ça. Machin. Mais moi qui suis pas joueur de console portable, c'est vrai que j'utilisais déjà pas mal la Wii U en mode, tu sais, écran
dans ton lit.
Voilà,
dans le canapé.
Là, c'est exactement ce que je fais. Je suis dans mon lit avec ma console, avec la télé en même temps à côté. Ouais. Ou alors, mon copain mate la télé, moi, je peux jouer tranquillement à côté. Il y a un côté très pratique quand même. Et puis, comme je te dis, ce truc tout con que tu peux sortir de la veille, mais vraiment en 2 secondes, tu vois, tu joues 2 secondes à Zelda, tac, 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 ouais, c'est bon, ok, tu fais à manger, j'en ai pour 10 minutes, et tu reposes tout de suite. Et bah finalement, ça fonctionne super bien parce que tu fais vraiment ta session hyper rapidement, donc... C'est exactement ce qu'on attendait de ça. C'est comme la Game Boy limite, tu vois, c'est essentiel, tac, direct.
C'est ça qui est fascinant en fait, c'est que même si elle est extrêmement limitée en termes de batterie sur les jeux qui sont très demandeurs comme Zelda Breath of the Wild, qui est le jeu le plus important aujourd'hui sur Switch, en attendant évidemment Mario Kart, car Mario Kart 8 est le sauveur, il va tous nous absoudre de nos péchés.
Ah, j'ai tous les DLC, je sais pas si je vais le prendre encore.
Attends, je veux cette question. La réponse était bien sûr que oui. Mario Kart 8 en portable, le meilleur Mario Kart en portable, sérieusement.
Ouais, mais franchement, il m'annonce des DLC pour des courses supplémentaires, je suis prêt à raquer. Mais sans problème. Mais pour les mêmes courses. Non,
il y a pas de nouveau contenu à part le mode battle et des
de nouveaux circuits battle et 5 personnages supplémentaires.
C'est pas grave, je
m'en fous quand même. Même pas Didi, même pas je sais plus qui, mais bon.
Ça s'accère mes piches chez Gamekult. Donc la question en ce qui concerne la Switch, le truc qui m'a, je veux pas dire surpris, mais que je note et qui était pas forcément donné à l'avance, c'est que toutes les personnes qui ont une Switch autour de moi et qui voilà, malgré la batterie, l'emportent avec eux. Vraiment, c'est vrai, la console les suit, que ce soit dans le bus, que ce soit au bureau, que ce soit aux toilettes, la console les suit partout tant qu'ils ont envie de jouer, la console les suit, et c'est quelque chose qui n'était pas dit, parce qu'encore une fois, il suffisait que les performances soient suffisamment mauvaises une fois que tu la sors du dock ou ce genre de choses, mais non, pas du tout. Et d'ailleurs, c'est en ce qui concerne Zelda, étonnamment, c'est l'inverse.
J'étais sceptique au départ de cet usage, mais c'est vrai que le fait de pas avoir cette angoisse entre guillemets du je vais me faire déconnecter comme avec la Wii U, la tablette se fait déconnecter du dock entre guillemets, du coup de la console. Là, du coup, tu l'as pas, donc finalement, tu te sens vraiment plus libre en fait.
Et puis,
au final.
Petite anecdote pour terminer ce chapitre-là. Après, on passe à Zelda, c'est promis. Petite anecdote, hier, alors là, encore une fois, pour le jour de l'enregistrement, hier, la tempête Zeus est passée sur moi, comme elle est passée sur une bonne partie de l'Europe de l'Ouest.
Stéphanie de Monaco.
Là, j'ai une coupure de courant de 3 heures, et pendant ce temps-là, j'ai pu jouer à Zelda. J'ai pu, dans le noir,
impeccable,
dans mon lit, pendant que dehors, des électriciens s'affairaient après la tempête pour nous redonner le jus qui nous permettait d'avoir le chauffage suffisant pour passer la nuit, et surtout pour pouvoir se doucher le lendemain. Mais pour le coup, oui, c'était extrêmement satisfaisant de pouvoir simplement prendre la console, continuer son Zelda, point à la ligne.
Ah, ce format hybride est vraiment une très très bonne idée et c'est, enfin, la preuve, les chiffres de vente rien qu'en France, 105 000 en une semaine. Je crois qu'ils avaient prévu, ils visaient dans le plus beau des cas 90 000, je crois.
Je suis d'accord avec toi et c'est un joli démarrage. Maintenant, comme Oscar Le Maire l'a indiqué sur Twitter.
Un record historique en France, quand même.
C'est un record. Non, mais tout à fait. Mais la question, c'est qu'est-ce que ça va donner sur les prochains mois? Et c'est là que ça va être crucial, en fait. Est-ce que l'essai est transformé? Mais en tout cas, pour l'instant, la balle a bien été dégagée. Voilà, ouais. Je fais métaphore sportive aujourd'hui.
Et vite fait, pour clore, je pense que ce qui a bénéficié, c'est le fait que la Wii U était mal brandée quand même, on s'en souvient.
Oui.
Les gens savaient pas trop si c'était une extension de la Wii, ce genre de choses, elle prenait le même nom. Là, pour le coup, le concept est beaucoup plus clair, en fait, au final. Mm-hmm. Ils ont réussi à bien mieux expliquer que ce qu'était la Wii U et que le gameplay asymétrique, c'était une catastrophe. Là, c'est simple. T'as ton écran, tu le poses, et sinon, tu peux aussi jouer sur ta télé. Le truc est super clair, les gens comprennent, le grand public a compris, et ça, pour Nintendo, c'est vraiment crucial.
Dans un instant, on vous parle de The Legend of Zelda Breath of the Wild. On y a joué sur Nintendo Switch et on en parle.
Bonjour à tous, je suis Amo et je présente Kaorin, le podcast musical de la culture visuelle japonaise. Animation japonaise, jeux vidéo, doujin music, où on vous fait écouter la musique et on vous présente les œuvres, les artistes et les compositeurs. Tous les genres, toutes les époques, tous les styles, avec pour seul objectif celui de vous aider à explorer la grande variété des œuvres japonaises. Kaorin, c'est un mardi sur deux et c'est sur Radio Kawa.
Voilà, nous sommes de retour dans cet épisode 0 de La Cartouche. Après avoir parlé de la Switch en tant que console, on va parler d'un jeu Switch, du grand jeu Switch, qui est sorti en même temps que la console, qui est également sorti sur Wii U. Est-ce que tu as eu l'occasion d'y toucher sur Wii U ou pas du tout?
Non, pas du tout. Je l'ai vu tourner, mais extrêmement rapidement.
Voilà, c'était Boulap très, très peu.
Non, c'était chez un pote.
Parce que pour le coup, c'est très drôle, parce que Boulapoire de Gamekult, évidemment, notre ami Boulapoire, a été un des premiers, ça fait heure, à tweeter sur comment fonctionnait Breath of the Wild sur Wii U.
Et
il a
été parce que forcément, repris. Tout le monde regardait sur Switch pendant ce temps.
Il a été repris sur NeoGAF, il a été repris sur des forums. C'était très très drôle de voir Boulapoire circuler sur Internet de cette façon-là. Ça m'a bien fait rire et plaisir en même temps. Parce que voilà, c'est juste de voir quelqu'un qu'on connaît, de voir son pseudo affiché. Friend Journalist Boulapoire is reporting on the Wii U version of The Legend of Zelda Breath of the Wild. Et donc, pour revenir sur la version Switch, la version à laquelle on joue actuellement, on l'a pas terminé, hein, faut être très clair. Tu es plus dans une perspective d'exploration, je suis plus dans une perspective de, à la fois d'exploration et en même temps de pousser quand même sérieusement la quête principale. Parce qu'il y a vraiment moyen de faire un petit peu ce que tu veux dans ce jeu-là. Lou, je te laisse commencer. Qu'est-ce que tu penses de ce nouveau-né de la série Legend of Zelda?
Alors écoute, on m'a déjà suffisamment agressé sur Twitter et divers réseaux.
Tu l'as cherché.
Oui, alors il y a eu un petit troll effectivement, mais qui est pas si trollesque que ça et j'y reviendrai après. Mais non, c'est vrai que moi, mon truc principal, c'est que avant tout, et je le maintiens, c'est pas ce que moi personnellement j'attends d'un Zelda, mais c'est vraiment tout à fait personnel, hein. Et c'est pour ça que ça m'a un petit peu agacé. Les gens qui disent, oh, mais t'es con, ceci, cela et tout. Si t'as même plus le droit de dire, tu sais, c'est comme les enfants, tu leur apprends à dire je n'aime pas au lieu de dire c'est nul, tu vois. Et même quand tu dis je n'aime pas, tu te fais quand même agresser. Et encore, je n'ai pas dit que j'aimais pas. J'ai dit que c'était pas exactement ce que j'attendais. Alors, j'explique déjà, moi, ce que j'attends dans un Zelda pour essayer de mieux exprimer. Après, je vais expliquer pourquoi j'aime quand même ce Zelda. Zelda, je l'ai découvert avec A Link to the Past, donc il y a très très longtemps, en version japonaise, je comprenais même pas quand j'y jouais. D'ailleurs, j'attaquais les ennemis avec le fil à papillon, je comprenais pas pourquoi ça leur faisait pas de dégâts, mais bref, ceci est une autre histoire. Ce que j'aime, c'est cette rigueur, c'est cette quête extrêmement écrite, finalement, dans le sens où tu as un ordre très précis. Alors, ça peut paraître extrêmement linéaire, même si dans cet ordre petit, tu as quand même une marge de progression, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu obtiens un objet, et les trésors sont vraiment hyper importants parce que c'est ce qui te permet d'explorer davantage l'univers dans Zelda. Et c'est ça que j'aime, c'est cette exploration progressive et où tu repères un endroit, tu t'y passes, tu dis, ah, tiens, je comprends pas, bon, bah, je reviendrai plus tard, et tu reviens plus tard, et là, tu dis, ah, j'ai compris maintenant que j'étais l'objet, je peux faire ceci, cela. Moi, c'était vraiment ce truc très codifié, qui peut paraître du coup peut-être extrêmement austère pour les joueurs d'aujourd'hui, hein. Je peux tout à fait le concevoir que pour eux c'est quelque chose qui est trop quadrillé, trop classique peut-être, tu vois. Je peux le comprendre. Moi, j'aime pas par exemple Monster Hunter parce que je trouve ça trop austère par exemple. Donc il y a peut-être des gens qui comme moi ne comprennent pas pourquoi j'aime cette austérité malgré tout. Alors si pardonnez-moi la comparaison avec Monster Hunter du coup qui est un petit peu cavalière, mais bon. Donc voilà, moi c'est vraiment ce que j'aime dans Zelda, et là on part vraiment du tout, c'est-à-dire que sans trop spoiler, tu récupères les objets majeurs dès le début, enfin les objets majeurs, les fonctions majeures dès le début du jeu, et tu dis au revoir au grappin, au boomerang, à tous ces trucs qui...
Tu dis pas au revoir au boomerang en fait, techniquement. Tu peux le retrouver en tant que carme de mêlée.
Oui. Après, enfin, tu vois ce que je veux dire, mais tout ce,
mais ils s'usent comme les autres.
Ouais, voilà, ça c'est encore un autre sujet, mais voilà, moi c'était ces objets justement qui s'usaient jamais, que tu récupérais un par un, c'est vraiment cette mécanique classique qui a été utilisée jusque Skyward Sword. Donc c'est pour ça que quand j'ai fait mon tweet aussi quelque part, Zelda 1900, j'ai même plus la date, c'est 83, je sais plus.
Oula, non, je pense que c'est 86.
85, 80, je pense pas que ce soit 86 son année de naissance, donc ça, je m'en serais souvenu. Enfin, peut-être, je l'ai dit. Enfin, du coup, date de naissance, et puis j'avais mis 2011, je crois que c'est l'année de sortie de Skyward Sword, si je dis pas de bêtises. Parce que vraiment,
86, bouillat.
C'est vrai?
Ouais.
Bravo à toi. Écoute, je le retiendrai pour la prochaine fois, c'est mon année de naissance.
21 février 86 sur le Famicom Disk System. Donc, à l'époque où évidemment il s'effaçait automatiquement, puisque c'était pas le meilleur support du monde.
J'avais un mois et 10 jours. Enfin bref, toujours est-il que quelque part, la mécanique Zelda est morte avec Breath of the Wild. Pour le meilleur ou pour le pire, ça c'est vraiment une question de goût et je dirais le consensus est plutôt que c'est pour le meilleur. Moi personnellement, ce Zelda-là me donne aussi envie de rejouer aux anciens parce que je retrouve pas ce que j'aime dans Zelda. Après, ça m'empêche pas d'apprécier énormément ce jeu pour ce qu'il est, parce qu'il propose vraiment quelque chose d'extrêmement plaisant, pas forcément hyper méga novateur dans son approche globale, mais dans la finesse de ses mécaniques, il a poussé le bouchon très très loin.
Et c'est, pour toi, et c'est enfin, complètement pour toi, en gros, ce jeu-là, il manque d'un univers quadrillé et comment dire, d'une progression beaucoup plus logique, de quelque chose de beaucoup plus carré en fait. En
c'est ce que j'expliquais déjà avec Final Fantasy XV et pour lequel je m'étais déjà fait tomber dessus. Moi, ce que j'aime dans le caractère épique, c'est que t'as cette espèce de progression. Alors, certaines progressions quand même dans ce Zelda, t'as une progression dans Final Fantasy XV, mais quand tu es trop libre, t'as tendance à faire un petit peu d'autres trucs au final que vraiment t'intéresser à la quête principale. Et alors, c'est une tendance que j'ai naturellement, c'est-à-dire comme tu l'as expliqué, je pars vraiment explorer Hyrule plutôt que m'intéresser à la quête principale, déjà parce que je vais être plus puissant déjà à la base, tu vois.
Je trouve ça ennuyeux en fait de progresser comme ça dans Zelda Breath of the Wild. Moi, ce qui m'intéresse, alors je t'explique un petit peu comment je joue au jeu. Pour le coup, c'est que la quête principale, très souvent, on va te dire maintenant va là-bas. Va parler à tel personnage, va faire telle chose, ou alors trouve une solution pour pouvoir atteindre X. Et en chemin, je vois, quand je croise, par exemple, alors là, on va expliquer rapidement, petite parenthèse, hein, j'ai dû le mettre dans la description de l'épisode, mais on va allègrement détailler, donc du coup spoiler des éléments de gameplay, la plupart des éléments de gameplay du jeu. Par contre, on ne pipera mot du scénario. On ne dira rien du scénario, on a envie que vous découvriez ça évidemment par vous-même. Mais
c'est extrêmement important, surtout dans cet épisode-là.
Mais pour le coup, donc, ce qui est intéressant, ce qui a beaucoup changé vis-à-vis des autres épisodes de Zelda, au-delà du fait que c'est un énorme monde ouvert, c'est que les donjons n'existent plus vraiment. On a un nombre limité de donjons traditionnels, et on se retrouve surtout avec, je crois, quasiment une centaine, voire même un peu plus d'une centaine de sanctuaires qui sont des salles beaucoup plus petites qu'on doit trouver, donc on va tomber dessus sur la carte. On ne tombe pas dessus, entre parenthèses, en montant sur la tour, ils ne sont pas directement donnés, indiqués, il faut les trouver par soi-même, que ce soit en utilisant une longue vue et en les repérant sur la carte, ou alors simplement en les découvrant en se promenant.
On a aussi le détecteur.
On a le détecteur. Ceci dit, le détecteur, je le trouve pas très utile parce que le détecteur.
Oui, je comprends pas. Il sonne tellement tôt.
C'est ça. En fait, le problème, c'est que le détecteur, soit je sais où il est, dans ce cas-là, il fait du bruit et il me sert à rien. Ouais. Soit je sais pas où il est et je le vois pas et il fait du bruit et j'ai aucune idée d'où est ce foutu sanctuaire. Ouais,
moi, personnellement, je crois que c'est juste un chaud-froid. Ça veut dire droit devant, simplement, quand il fait bip, bip, bip. Ah. Mais c'est extrêmement, extrêmement agaçant parce que le son est vraiment très, très fort.
Ceci dit, tu peux le désactiver si tu veux.
Oui, je sais, heureusement, mais il n'est pas extrêmement pratique.
Pour revenir à ça, pour le coup, donc les sanctuaires, le truc assez chouette, c'est que ça fonctionne comme des salles de portal, pour faire simple. C'est des défis qui sont vraiment différent des puzzles des Zelda habituels. Pour moi, c'est beaucoup plus physique. Ça fonctionne beaucoup plus sur, comment dire, non pas la gestion d'un donjon où tu vas dire effectivement, je dois me souvenir que j'ai qu'une seule clé, il faut que j'aille l'amener là-bas, ou alors il faut que j'ai la grande clé pour ouvrir la porte du boss, mais comment est-ce que je fais pour atteindre la grande clé, mais comment est-ce que je fais pour atteindre la carte, mais comment est-ce que je fais pour atteindre l'item qui va me permettre d'obtenir la carte, etc., etc. Plutôt que de fonctionner à rebours comme ça, les sanctuaires, c'est beaucoup plus, voilà le problème intellectuel que tu dois régler maintenant, ou parfois également le combat que tu dois gagner, tout court, ça peut arriver aussi dans certains sanctuaires, point à la ligne. Donc voilà, je trouve ça intéressant, et je trouve que la plupart des sanctuaires sont réussis, on y reviendra peut-être plus tard. Mais donc ouais. Voilà, moi ce qui me plaît, c'est simplement d'explorer, mais d'explorer en chemin. Et dès
ça,
que je trouve un sanctuaire, je le fais.
Là, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'on te dit va à tel endroit et effectivement, sur la route, t'es interrompu parce que tu découvres ce qui est une perspective de voyage essentielle en fait au final. Et j'ai jamais ressenti ça à ce point dans aucun jeu. J'avais déjà été bluffé à l'époque par Far Cry Primal par ce côté justement exploration, ce côté sauvage, mais il proposait vraiment rien de comparable dans la finesse, comme je disais. C'est marrant parce que je compare à Far Cry ce Zelda parce que c'est relativement similaire. Hein. Tu dois explorer des zones en découvrant des tours. Hein. C'est le même principe que dans Far Cry, hein. Les tours radio à escalader. Mais le monde est beaucoup plus rempli de choses incroyables.
Il y a une différence fondamentale aussi, c'est que la seule information en fait que te donne la tour une fois que tu montes dessus et que tu actives le terminal en haut de la tour, la seule information qu'elle te donne au-delà de pouvoir te lancer de la tour un peu quand tu veux, parce que tu peux t'y téléporter, c'est la topographie et c'est rien d'autre. C'est-à-dire que même les endroits où tu peux aller déposer les chevaux, ils ne te les indiquent pas. Il faut que tu les découvres par toi-même.
En revanche, ce qu'elle t'offre la tour, c'est une perspective. Non, mais c'est une perspective, surtout, dans ce jeu qui a une profondeur de champ qui est relativement hallucinante. Enfin, c'est-à-dire que tu vois, dès que tu sors du... Bon, mini-spoil, j'ai le droit de dire ce qu'on voit dès qu'on sort du tout début du jeu, droit devant, le château.
Oui.
Écoute, toi, c'est pas un gros spoil. Ah, tu vois le château d'Hyrule dès le début du jeu.
Ça, c'est vrai.
Devant le promontoire, dès que tu sors du début du jeu. Mm-hmm. Et tu te dis, bon, il est pas très loin, quand même, effectivement. Et tu te rends compte qu'en fait, il est à une distance. Mmh. Tu vois à ce jeu à une distance. Et tu vois des tout petits éléments. Tu vois les arbres, mais à une distance incroyable. Et en sachant que les arbres, tu peux tous les couper. Enfin, t'as des choses qui popent à 2 mètres.
C'est vrai. T'as des ennemis qui popent littéralement
ça,
à 2 mètres.
C'est incompréhensible. T'as une énorme...
Ah, si, c'est compréhensible. C'est simplement que la console ne peut pas tout faire.
Oui. Non. Oui, évidemment. J'allais dire, c'est dommage. C'est déjà pas mal qu'on ait déjà clairement. Cette vue qui est hallucinante. Enfin, moi, clairement, ça, c'est hallucinant.
Sur une machine qui tient dans tes deux mains.
Et par contre, c'est dommage, effectivement, que les textures et les ennemis se chargent à deux mètres. Ça, c'est vraiment...
C'est un compromis.
Le petit point négatif au niveau de la technique avec le framerate, mais malgré tout, c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier. Je vais rebondir sur les sanctuaires. Du coup, ça, je réfléchissais en même temps pendant que tu parlais. Ouais. Ce que j'aime dans le Zelda à l'ancienne, c'est un labyrinthe avec un seul chemin possible. Clairement, je vois comme ça. Et ce Zelda-là, c'est une espèce de... je sais pas comment dire, c'est un labyrinthe avec plein d'endroits possibles en fait. Enfin, tu t'as plusieurs chemins, tu sais même pas comment tu y vas.
Alors,
c'est vraiment une autre façon de jouer. Et pour revenir vite fait du coup sur le sanctuaire, ce que je voulais dire, c'est que ces sanctuaires, ils manquent de caractère quand même. Moi, ce que j'aimais dans les donjons à l'ancienne, c'est chaque donjon avait vraiment une thématique, un style, une musique, un plein de gimmicks, enfin plein de trucs, enfin clairement.
C'est très difficile.
Je me souviens de chaque donjon de Zelda, il y en a qui m'ont tellement marqué parce qu'ils étaient spécifiques.
Mais tu peux pas personnaliser sans sanctuaire.
C'est évident, ça c'est évident. Mais je trouve que les sanctuaires, ils se ressemblent tous, et c'est, je veux dire, dans l'approche graphique, dans le style, et ça, c'est dommage. Heureusement qu'il y a du coup les guillemets donjons quelque part qui rattrapent, mais
auquel tu n'as pas encore joué, donc tu ne chutes pas de marque.
Mais du coup, les donjons à l'ancienne me manquent malgré tout.
Alors,
leur profusion aussi.
Dans tout le jeu et dans tout le level design et dans toutes les mécaniques de ce jeu-là, il y a quelque chose qui est fondamental, c'est que le jeu te propose en fait quelque chose d'obligatoire et te propose quelque chose de facultatif. Alors ça se voit évidemment au niveau des missions. Mm-hmm. On te propose des missions obligatoires, qui est la quête principale, et des missions facultatives que tu vas avoir, que ce soit en faisant naturellement ta quête ou simplement en parlant à des PNJ de manière un peu random, tu vas vite découvrir des quêtes supplémentaires. Mais c'est également le cas dans les sanctuaires, où tu vas vite te rendre compte que dans certains sanctuaires, effectivement, tu peux aller terminer le sanctuaire et accéder au petit emblème qui va te permettre à terme de gagner un cœur supplémentaire ou un petit peu d'endurance supplémentaire. Mais tu peux également faire peut-être une version un tout petit peu plus difficile en prenant un couloir que tu n'avais pas forcément vu pour obtenir une arme en plus, quelque chose en plus. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement intelligent, je trouve, et qui est vraiment à plein d'endroits dans le jeu, où le jeu te dit, d'accord, tu dois en tout cas faire ça, mais si jamais tu as envie de mettre l'effort supplémentaire, si jamais tu te penses encore plus habile ou encore plus intelligent, il y a quelque chose de plus à faire pour toi. Et c'est quelque chose qui voilà se découle vraiment sur tout l'aspect du jeu. Ça se découle également sur le crafting. Pourquoi ? L'aspect, à mon avis, le plus important du crafting dans Zelda Breath of the Wild, c'est d'être le meilleur cuisinier d'Hyrule, puisque tout au long de l'aventure, tu peux récupérer plein d'objets, et au-delà des armes, au-delà des pièces d'armure, au-delà des habits, il y a évidemment de quoi te faire de la bouffe et de quoi te faire des remèdes. Et une fois que tu comprends un petit peu comment ça fonctionne, c'est pas compliqué de faire un remède ou de la bouffe qui tienne la route, de t'en cuisiner à partir de matières premières. Maintenant, si tu veux faire quelque chose vraiment qui fonctionne d'une certaine manière, tu peux avoir certaines, par exemple, certaines nourritures qui vont donner plus d'attaque ou plus de défense, ou qui vont te permettre de mieux supporter le chaud ou mieux supporter le froid, parce que t'as certaines zones qui sont plus chaudes et plus froides, il faut les tempérer notamment en fonction de ton habillement, ou si tu peux pas avec ton habillement, en fonction de bouffe ou de remède. Et ben ces trucs là, si tu veux vraiment quelque chose de spécifique, là tu vas devoir comprendre exactement comment la cuisine fonctionne. Mais si t'as simplement une compréhension simple de la cuisine, tu peux t'en sortir.
C'est pas si dur, parce qu'en plus les ingrédients ont des petits noms qui t'indiquent quand même à quoi ils vont servir. Mmh. Hein. Quand c'est enduro, tu sais que ça va servir à l'endurance, ce genre de petit truc simple en fait.
Mais si tu veux le dosage parfait, il va falloir le connaître.
Ah oui, mais après oui, c'est une question d'essai et tout. Le crafting, bah, là encore, les objets cassables aussi, c'est vraiment pas des choses que j'attendais dans Zelda. C'est pour moi, c'est des gimmicks d'autres styles qui...
Ça renouvelle énormément le gameplay, je trouve.
Ouais, enfin, c'était déjà un truc combats. Qui m'avait agacé dans Skyward Sword, c'était cette pêche aux petits trucs pour pouvoir améliorer l'équipement et tout, et... Ça m'agaçait, clairement, ça m'agaçait dans Skyward Sword, mais dans Breath of the Wild, c'est beaucoup moins frustrant.
Skyward Sword, c'était affreux parce que tu devais aller retourner quelque part pour, par exemple, reconstruire ton bouclier. Ce qui faisait.
Ça me prenait la tête dans Skyward Sword, tu peux pas savoir. Et Skyward Sword est le seul Zelda console que j'ai jamais terminé, d'ailleurs, tellement il m'a agacé.
Pour le coup, je veux dire, il y a ton bouclier qui se casse dans Breath of the Wild, qu'est-ce que tu fais? Oh tiens, j'ai trouvé un autre bouclier dans un coffre où il y a un monstre qui a droppé son bouclier. Bon, bah voilà, j'ai mon bouclier.
C'est moins frustrant, c'est clairement moins frustrant, et l'approche est quand même beaucoup plus agréable pour des gens qui seraient pas intéressés par ces mécaniques. Donc au final, on va dire qu'on s'y retrouve à peu près, quoi. Et je prends un pied monstre à jouer à ce jeu. J'ai vu des gens dire, ouais, est-ce que c'est pas le jeu du siècle et tout. Je pense que c'est un petit peu exagéré. Alors, quand même d'aller dans ces considérations-là.
Deux points là-dessus. Est-ce que c'est un jeu parfait? Non.
Aucun jeu n'est parfait.
On cite des défauts, je vais en citer d'autres juste après, mais c'est pas un jeu parfait. Par contre, est-ce que c'est un des meilleurs jeux de l'année? Assurément.
Oui.
J'ai jamais autant accroché à un Zelda depuis Twilight Princess, un Zelda 3D depuis Twilight Princess. L'autre Zelda auquel j'ai beaucoup accroché, c'est A Link Between Worlds, évidemment, sur 3DS, qui est une merveille.
Ouais, qui était pas mal.
Qui est une merveille incroyable.
Pas mon préféré, mais
même si la promesse de base qui était tu vas pouvoir explorer comme le jeu comme tu veux, c'était une connerie monstre, parce qu'évidemment t'étais limité dans ta progression, notamment par le bracelet de force. Et puis j'ai jamais été autant captivé par un jeu open world depuis GTA V et par un jeu tout court depuis The Witness. Donc très franchement, oui, c'est vraiment un très bon jeu, c'est vraiment un jeu important. Après, la bataille pour se dire est-ce que c'est le 20/20, est-ce que c'est un jeu parfait, la réponse est non, mais c'est pas grave, c'est pas parce que le jeu est pas un 20/20
jeu n'est parfait. Mais clairement.
Que voilà. Après, bon, il y a tout le problème de la notation et du 20/20 en tant que tel, où on va pas rentrer dedans parce que je sais qu'on n'est pas d'accord.
autre chose.
Non,
toi et moi
sur l'idée qu'il peut, enfin, qu'un 20/20 n'existe pas, je pense que tu défends cette avis-là, non?
Oui, moi pour moi ça sert à rien de mettre un 20 sur 20. Pour moi c'est la parfaite. Mmh. C'est pas utile.
Je pense que selon les cas ça peut être intéressant, mais encore une fois c'est pas un débat qu'on va avoir ce soir.
Bah, oui. Non, c'est juste vite fait. Je pense que du coup ça donne l'image que le jeu n'a aucun défaut. Simplement, tu vois, 20 sur 20, c'est
deux préconceptions en fonction de ce jeu-là. Premièrement, le jeu est extrêmement difficile. Oui, mais le jeu est effectivement difficile parce qu'il y a des ennemis qui te one-shot, parce que tu commences avec très peu de points de vie, et que certaines attaques, bah voilà, t'en enlèves beaucoup d'un coup. Ceci étant dit, les points de sauvegarde sont extrêmement généreux. Tu peux sauvegarder quand tu veux, à de très très rares exceptions, mais 99% du temps, tu peux sauvegarder en appuyant sur Start. Et même à chaque fois que tu appuies sur Start, quasiment, comme The Witness d'ailleurs, à y penser, il y a une sauvegarde automatique qui se fait. Donc très honnêtement, il n'y a pas de souci. D'autant que si tu meurs, tu retrouves tout ton stuff, tous tes items, tout ton link comme il était au moment de la dernière sauvegarde automatique. Donc très franchement, c'est pas un problème. Deuxième préconception, qui est que quand tu commences le jeu, c'est parti, tu pars à l'aventure, le jeu ne te dit rien, tu prends ton épée et tu pars à l'aventure. Non, c'est faux. Tu passes une bonne heure dans le grand plateau qui est en vérité le grand tuto. pour de bonnes raisons d'ailleurs, parce que c'est là qu'on va te donner...
Qui est quand même très très grand. Hein,
c'est là qui est grand, qui te...
Enfin, très très grand. C'est que je dis ça, t'imagines un truc énorme. C'est grand pour ce que c'est par rapport au reste d'Hyrule. Mmh. C'est rikiki, c'est surréaliste.
En fait, c'est comme si tu commençais Zelda Ocarina of Time directement dans la plaine d'Hyrule. En quelque sorte.
Ouais. Bah, c'est comme si, en fait, tu découvres, c'est comme si tu commençais, en fait, un Zelda, genre, à Paris, et tu découvres, donc, c'est grand Paris, quand même, hein, tu vois, il faut
arriver par la gare du Nord, t'es directement arrivé en plein milieu de République.
C'est ça, il te faut une bonne journée pour traverser du Nord au Sud, quand même, hein, mais, peut-être pas une journée entière, mais, et tu te rends compte qu'en fait, la carte entière, c'est l'Europe. Donc, c'est à peu près ça, tu vois,
Effectivement, c'est assez ça. Et pour le coup, non, donc voilà, c'est clairement pas, on te laisse pas partir à poil au départ. Par contre, il y a de bonnes raisons pour lesquelles le jeu le fait, et notamment, c'est qu'il te file quelque chose comme 5 ou 6 pouvoirs différents dès le départ, et que forcément, tu as besoin de le savoir. Et voilà, c'est une façon
d'expérimenter.
Et d'expérimenter, effectivement.
Parce que c'est ça,
c'est une sandbox, le grand plateau.
C'est ça aussi qui est intéressant, c'est que le grand plateau te montre déjà que tu peux résoudre certaines choses de plein de façons diverses, et de façon presque empirique, en fait. Tu vois un ravin, tu vois des arbres, tu te dis bon bah je vais couper cet arbre sous cet angle très précis parce que l'arbre il va pas tomber forcément de la bonne manière et paf ça me fait un pont et t'as plein d'autres façons d'accomplir des choses. Tu te dis ah comment
et
je fais pour
aller
là.
Et même dans les sanctuaires, dans les donjons, il y a plein de façons de considérer le jeu.
Les énigmes, oui, c'est ça qui est brillant.
Ce qui est à la fois un défaut et une qualité pour le coup, mais la plupart du temps c'est une qualité, c'est que tu peux le résoudre de plein de façons différentes et dans plein d'occasions et notamment dans les donjons tu as l'impression de tricher un petit peu, mais tu te rends vite compte que de toute façon il n'y avait pas de façon facile de résoudre l'énigme et qu'il faut bien se débrouiller à l'aventure comme à l'aventure.
Mais ils ont pensé à des trucs de triche qui sont relativement hallucinants quand même.
Oui.
Je repasse sur ce truc, sur ce labyrinthe avec la bille. Il y a une façon très très simple de terminer. Je le dis pas laquelle, mais c'est juste que réfléchissez et c'est juste brillant quoi. Enfin c'est plein de petits clins d'œil comme ça qui font que ils ont pensé à pas mal de trucs assez
assez sympa. Je l'ai terminé, j'en discutais justement avec The Cat l'autre jour. Celui-là, je l'ai terminé de manière encore pire que ce que tu penses, parce qu'en fait, je me suis littéralement servi du plateau comme de catapulte pour la ramener vers moi, puis ensuite ramener la bille directement dans le trou dans lequel je devais la mettre en la portant. J'ai utilisé encore une technique de
moi, je me suis contorsionné.
Encore plus malhonnête. Rapide point également, il n'y a pas beaucoup de donjons, il y a des phases pré-donjons pour accéder à ces donjons-là, et je les trouve un peu répétitifs, je suis à mon deuxième donjon aujourd'hui, et pour être clair, j'ai vraiment l'impression que les deux autres, ou voire plus, là pour l'instant j'imagine qu'il y a 4 grands donjons, il y en a peut-être encore plus derrière, mais en tout cas c'est ce que la quête principale laisse entendre là où j'en suis actuellement, je pense que ça va se faire à peu près de la même façon, et c'est pas grave, mais ça se voit qu'ils se sont pas trop creusé la tête sur la façon d'entrer dans les donjons. Voilà, j'en dis pas plus pour éviter tout spoil ou de gâcher vraiment certaines choses, mais voilà, je trouve ça juste un tout petit peu dommage, mais ça reste extrêmement superficiel. Et puis, c'est un open world, c'est immense, c'est riche, il faut être très clair, le jeu est riche, mais malgré tout, certains passages sont vides. Et il faut quand même réfléchir un petit peu, notamment à la topologie, et c'est à ça que servent les grandes tours, avant de se lancer un peu n'importe comment, parce qu'il y a certaines, fois où, je veux dire, tu peux pas te lancer dans tous les sens en te disant, je vais apprécier le jeu de la même façon. Il y a certains endroits qui sont volontairement mornes, probablement pour des raisons de contexte et de scénario, mais où tu peux t'y perdre un petit peu, puis tu fais, ouais, non, en fait, je vais me téléporter ailleurs, parce que là, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant, et où je rencontre des monstres beaucoup trop forts pour moi pour l'instant.
Ah, c'est relou. Non, c'est bien, mais du coup, c'est un petit peu frustrant quand t'es joueur, tu dis, ah, je vais encore aller là et tout. Mais c'est vrai que ça apporte quelque chose, parce que, on en parlait, du coup, sur Pokémon, parce que t'es trop cloisonné de Pokémon, qui t'empêche un petit peu d'aller où tu veux, les dernières versions. Et là, au moins, tu te dis, bon, bah, je me suis aventuré là, effectivement, j'irai pas plus tard. Tu te prends une petite claque, ça te calme, et puis tu vas ailleurs. Et c'est nécessaire, c'est bien de le faire comme ça. Je voulais juste rebondir sur c'est le meilleur démarrage d'un Zelda, un meilleur début de Zelda depuis extrêmement longtemps, parce que
c'est quand même une heure de tuto, hein. Il passe bien, mais c'est une heure de tuto.
Tu vis pas de la même manière qu'un Twilight Princess, clairement. Clairement, non mais vraiment, j'adore Twilight Princess, hein. C'est pour moi,
il
c'est
est fantastique,
top of the pop parmi les Zelda.
En tout cas, scénaristiquement et en termes d'ambiance.
En termes d'ambiance, en termes de formule à l'ancienne de Zelda que moi j'apprécie.
C'est vrai.
Mais là, non, franchement, en 2 minutes, tu peux déjà commencer à bouger, à aller où tu veux, à faire ce que tu veux, et t'es pas obligé de faire des trucs qu'on dit, ah, faut que tu fasses ça tout de suite. Alors qu'avant, t'étais coincé dans un putain de village et tu voyais rien. Là, non, tu peux déjà te battre avec des ennemis, tu peux explorer, tu peux crever connement parce qu'il fait trop froid, mais tu peux le faire, simplement. On te donne cette possibilité. Et ça c'est énorme, c'est un jeu qui offre énormément de possibilités, et c'est extrêmement agréable pour ça, mais moi c'est pas ce que j'attendais, parce que au final c'est pas ce que j'attends d'un Zelda, d'avoir des possibilités, mais la façon dont ils l'ont fait, c'est le plus bel open world clairement qui a jamais été créé à jour pour moi, enfin assurément, enfin je pense que il y a même pas de doute sur cette question là. Ça, pour moi, c'est une évidence.
J'ai pas assez joué à des jeux du genre pour parce que justement,
moi,
le genre
est très difficile sur le genre.
Les conventions du genre ont tendance à m'horripiler. J'ai arrêté Far Cry quelques heures à peine après avoir commencé, justement pour ce syndrome.
C'est difficile.
Tu montes sur une tour et tout d'un coup, tu as 20 000 trucs et tu fais. Puis ensuite, on te dit et tu dois aller tuer des tigres pour faire des remèdes et tu fais.
C'est
insupportable. Pourquoi? Parce que c'est pas ta nécessité. C'est le jeu qui te dit va faire ça et tu non.
C'est pas ce que je préfère, l'open world, hein, clairement, parce que justement, ce que j'expliquais, c'est que pour moi, ça manque de lien, ça manque du côté de ce caractère épique qui, pour moi, a besoin d'être maîtrisé, d'avoir du rythme. Mm-hmm. Mais il y en a sur moi qui ont très très bien marché. Tu parlais de GTA, je trouve que GTA, le 4,
GTA 5 est une leçon. Le 4
j'ai
est un
pas
peu
encore
plan
fait
plan.
Le 5. Oh. Mais le 4, j'avais déjà adoré, même s'il avait été décrié pour son côté sérieux.
Fais le 5.
Si tu voyais mon backlog, The Witcher 3
jette
aussi à faire.
Jette le reste, fais le 5.
En parlant d'open world. Mais il y a des open world que je supporte pas. Par exemple, Oblivion, Skyrim, je me suis ennuyé mortellement. Les Fallout, ça passe parce que j'aime beaucoup le style post-apocalyptique. Mais là, ils proposent clairement, une densité que tu as rarement vue avant, en fait, au final. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'agréable de pouvoir toucher un monde aussi cohérent et d'avoir autant, c'est tout bête, hein, mais c'est le fait de pouvoir grimper quasiment à n'importe quel mur, le fait de pouvoir abattre n'importe quel arbre. Enfin, c'est Kokobé sur le journal du gamer, on parle comme d'un côté Minecraft, et quelque part
dans l'exploration,
t'as presque cette façon-là justement d'interagir avec le monde, c'est-à-dire que t'es presque tout puissant, finalement. C'est pas grand chose, hein, de pouvoir escalader tout ce que tu veux. Mais c'est tellement impossible et c'est tellement moins intuitif dans les autres jeux. Là, tout paraît extrêmement naturel et tu te dis juste, ah, j'aimerais bien faire ça. Et mais je peux le faire, en fait. Et ben, vas-y. C'est tout bête, simplement.
Tu peux le faire. On t'invite à le faire.
Pour attraper, tu vois, je te dis, comment je peux l'attraper? Tu sautes, t'appuies sur le bouton pour attraper, c'est bon. C'est tout con, mais je me suis dit, mais c'est con, mais c'est brillant, alors que c'est tout simple. Et il y a plein de jeux qui le font pas. Et là, tu dis, bon, bah, ils le font.
Je sais pas si on l'a dit, mais les touches. Le binding des touches pour le coup.
J'ai du mal.
Alors, j'ai eu du mal. C'est-à-dire que j'ai pu essayer le jeu avant la date de sortie chez un collègue journaliste. Je vais pas balancer parce que NDA et tout ça, mais et pour le coup, non, enfin maintenant c'est passé donc on s'en fout, mais toujours est-il que j'ai pu l'essayer et en fait si tu n'as pas fait le tuto, c'est imbitable, c'est incompréhensible, je trouve la, les touches,
c'est
quand on
te
les explique, quand on te les explique en une fois, c'est un problème. Par contre, le jeu te les explique pas à pas justement, tu fais différents sanctuaires et au fur et à mesure il te donne les différents pouvoirs. Et il te donne également le comment dire, il t'oblige à faire d'abord ça, puis à tirer une ou deux flèches, puis à faire ci, puis à faire ça. Et ça marche mieux. C'est pas idéal.
Ouais, mais c'est pas ergonomique, moins, contrairement aux anciens, tu vois, rien que pour jeter les objets, changer, machin, équiper, tout ça. C'est, je trouve que le bouton, tu sais, tu dois appuyer sur les boutons à gauche et puis faire bouger le stick à droite. Avant Zelda, c'était très très simple, hein. Tu voyais à l'écran quel bouton va activer quelle arme. Mm-hmm. C'était hyper simple. Franchement, c'était un gameplay, mais taillé aux oignons. Je dis pas que le gameplay est mauvais, je dis juste que c'est beaucoup moins intuitif au final. Tu dois
t'habituer.
Le fait que Link saute et maintenant il faut sauter soi-même, c'est cool, mais l'avoir foutu sur le bouton X qui est tout en haut du truc, c'est pas non plus le truc le plus pratique du monde, même si évidemment le saut est bien moins utile entre guillemets que dégainer l'épée, mais c'est juste que, enfin, je sais pas, c'est pas quelque chose qui me serait venu naturellement comme ça en fait.
Bah, donc, en fait, le saut est venu.
Ça fait plusieurs heures que j'y joue et je suis toujours pas habitué à ce gameplay, les gâchettes et tout, je me plante une fois sur deux quasiment. Et je dis pas que je suis forcément plus con qu'un autre, hein. Je suis pas non plus plus malin qu'un autre, mais t'as des gameplays qui sont beaucoup plus intuitifs et simples à prendre en main. Là, pour un Zelda, c'est pas cool. Clairement.
Le saut est clairement vu comme je veux dire un mouvement, une activité secondaire. C'est pour ça qu'ils l'ont mis sur X et qu'ils ont mis le coup de l'épée sur Y, parce que l'idée c'est que tu puisses donner des coups d'épée avec Y, courir avec B, qui sont les deux touches que tu peux atteindre le plus facilement dans cette position.
Oui, clairement.
En fait.
Mais je me comprends tout à fait. Mais c'est, je pense que t'as entièrement raison. Hein, mais c'est pas au final, tu vois, je suis pas.
Ça couplé au Joy-Con, ça aide pas.
Ouais, enfin tu vois, repense à Twilight Princess justement, on en parlait, où tu voyais tout à l'écran et tu savais sur quoi appuyer à quel moment.
Quitte à ce que l'interface soit un peu chargée d'ailleurs.
C'est ça. Là, l'interface effectivement pour le coup est épurée, ça vraiment, effectivement, mais tu perds en un chouïa en ergonomie. Je trouve. Alors c'est pas infaisable, hein, clairement pas, c'est pas le problème, mais c'est pas le plus pratique, hein. Même pour loquer, pour des trucs tout cons, c'est pas comme avant, c'est pas aussi simple. C'est pas infaisable, mais c'est pas aussi simple.
Très bien.
Salut, c'est Pipo.
Salut, c'est Gotoz.
On vous propose d'embarquer avec nous tous les mois pour écouter de la bonne musique de jeux vidéo.
Du récent ou du rétro, de la console ou du PC.
Tant que ça sonne, ça nous va. Des thématiques, de l'actu, des reprises et des invités. Le tout enrobé d'anecdotes.
Pendant 2 heures, on passe la musique de vos jeux préférés.
Et on s'intéresse à ceux qui la font.
On est les démons du midi, tous les mois sur Radio Kawa.
Nous sommes de retour pour le courrier des auditeurs. Merci d'avoir répondu au petit tweet qu'on a fait sur notre compte Twitter @lacartoucheRK. Dans le cadre de ce pilote, on vous a demandé si vous auriez des questions à nous poser concernant la Switch et concernant Zelda. Eh ben écoute, on va commencer par Bobo le Bonobo.
Ah, oh, c'est mignon.
Je crois que c'était Bono, tu vois, le frontman de U2, qui nous demande est-ce qu'on trouve un meilleur gameplay émergent dans d'autres jeux que Zelda Breath of the Wild triple A en particulier. Donc en gros, est-ce que Zelda Breath of the Wild est le plus intéressant au niveau du gameplay émergent de type open world? Je crois que c'est comme ça qu'il faut comprendre sa question.
Bon, je crois qu'on a répondu, hein, lors du truc précédent. Hein, mm-hmm. Après, gameplay c'est toujours un petit peu vague, hein, comme expression. Donc,
gameplay émergent, oui, ça reste.
Mais, en termes d'open world, clairement, là pour moi, on touche à un grand moment, en tout cas dans l'open world, a une grande leçon aussi dans la façon dont tu approches en fait la densité, simplement la façon dont tu peuples un open world. C'est, comment dire, c'est bizarre, mais c'est vraiment une question de feeling, hein, c'est-à-dire que t'as pas l'impression que les zones ont été posées au hasard. T'as eu cette fameuse explication comme quoi ils avaient d'abord conçu le jeu sous une forme 8 bits, en fait,
oui.
Sous une carte 8 bits, et je pense que ça a beaucoup, beaucoup aidé dans la façon dont il fallait équilibrer les zones. Parce que si tu pars tout de suite sur un truc grandiose et que tu dis là on va faire ça, là on va faire ça, là on va faire ça, ça risque d'être déséquilibré. Là, clairement, C'est un peu complexe à dire, mais le jeu fonctionne en tant que macrocosme et microcosme. C'est-à-dire que au niveau du macrocosme, tu vois les grandes zones, la façon dont elles s'imbriquent, la façon dont ça fonctionne, dont tu changes d'ambiance de l'une à l'autre, et en même temps, tout est fait pour que tu puisses passer facilement d'une ambiance à une autre et découvrir plein de petites choses. Enfin, c'est une vraie leçon de géographie, et ça, j'insiste souvent là-dedans depuis que le grand rythme croque, donc c'est dire s'il y a longtemps qu'on en parle. Pour moi, le plus important dans le jeu vidéo, et ça c'est vraiment à mon goût et c'est ce que je préfère, c'est la géographie. Et c'est pour ça que Skyward Sword m'avait déçu, parce qu'il n'avait pas une approche suffisamment géographique des lieux, avec ces zones qui sont indépendantes les unes des autres. C'est clairement pas pour moi l'aventure. L'aventure, au contraire, ça s'inscrit dans une démarche temporelle. Donc tu sais qu'au début de l'aventure, tu commences là, après une heure plus tard, t'es là, après un jour plus tard, t'es là. Mm-hmm. La géographie inscrit la temporalité inscrit l'aventure en elle-même. Donc c'est pour ça que cette maîtrise à ce point de la géographie, c'est sublime, quoi. C'est ça qui donne du nerf à l'aventure. Peut-être pas le caractère épique comme moi je l'aime, parce que je rappelle que pour moi l'épopée, ça se rapproche davantage à la narration, donc c'est-à-dire à des contraintes. Là, t'as pas ces contraintes, mais tu as une exploration qui est dingue. Voilà, j'abrège parce que sinon je vais pouvoir en parler pendant des heures, tellement je trouve ça fou, mais voilà.
Sur la question spécifiquement du gameplay même émergent, bon, déjà c'est difficile de parler de meilleur ou de moins bon gameplay émergent, parce que comment dire, par définition, c'est en dehors des mains du développeur, donc c'est forcément quelque chose d'un petit peu maladroit, d'un petit peu difficile à encadrer, vu que ça se passe en dehors des règles fixées par les développeurs. Je veux dire, si tu joues avec les éléments du jeu de manière différente que ce qui avait été prévu. Maintenant, la seule question que je me pose, est-ce que t'as déjà croisé des radeaux dans ton aventure?
Oui, mais j'ai pas réussi à aller dessus.
Je me demandais justement si on peut les bouger ou pas, parce que j'adorerais, je sais pas du tout si c'est possible, mais j'adorerais que tu puisses les faire sortir un petit peu de là où ils sont échoués, histoire de littéralement te promener.
Pas sur l'eau, du coup, parce que moi j'en ai croisé sur l'eau, hein, mais j'ai pas su comment les piloter. Rejoindre. Enfin, non, les piloter, c'est simple, ils t'expliquent quand même dans le jeu, suffit d'avoir une feuille.
Et oui, une feuille qui te permet tu donnes un grand coup de feuille. D'accord, ok. Donc voilà. C'est possible. Donc tu peux te promener en radeau.
Bon, dans ce qui est important, c'est... parce que t'as pas mal d'îles aussi à explorer. Enfin, c'est fou.
Ah, c'est comme ça que tu as. Ok, d'accord. Okay.
Ouais,
bien.
Ouais. Ouais, parce que
en tout cas, c'est une des techniques.
La nage, en tout cas, moi, ma nage est encore conditionnée par l'endurance. Je sais pas si t'as un truc, une magie Zora après qui fait que, mais l'endurance aussi, c'était un truc auquel j'étais pas habitué dans les Zelda, qui me frustre un petit peu.
Il y a différentes façons de régler ce problème-là. L'une d'entre elles étant de trouver une montagne très haut et pas loin.
Oui.
Ce qui est souvent ma solution à beaucoup de problèmes dans Zelda, parce que j'adore le principe de te jeter dans le vide et de planer jusqu'à l'endroit où tu veux aller.
C'est merveilleux. Ça, c'est merveilleux. Et de voir
l'évolution
du paysage, qui défile sous tes yeux. Enfin, c'est
petite parenthèse également de voir le cycle jour-nuit et l'ombre.
La méthode dynamique.
L'ombre d'énormes
nuages. Ah, ça c'est fou.
D'énormes montagnes qui te passent dessus et tu les vois bouger. C'est très bien fait aussi.
Oui, je dis la prise.
Même si le jeu, comparé à un jeu sur PS4 ou Xbox One, est relativement moche d'un point de vue purement technique, d'un point de vue esthétique, il est pas moche parce qu'il y a une très belle DA derrière, mais d'un point de vue technique, évidemment, c'est une Switch, c'est une console portable, donc c'est extrêmement plus limité.
Écoute, moi, ça suffit quand même à me foutre une petite baffe. Hein. Moi, surtout grâce à cette profondeur de champ qui vraiment, de mémoire, je me souviens pas avoir vu ça sur un jeu, quoi.
Donc, sur Twitter toujours, qui nous demande, ils ont parlé d'un Zelda Maker pour faire des tests, comme ils avaient parlé de Mario Maker. Ça semble être une idée beaucoup plus foireuse que Mario Maker pour le coup. Vous pensez qu'ils amorcent un truc ou non? Pour le coup, c'était pas vraiment un Zelda Maker, comme tu le disais, c'était simplement une version 8 bits, une version un peu modifiée du Zelda 8 bits avec des éléments en plus, pour montrer un petit peu, pour faire une sorte de mock-up, une sorte de démo test, d'idée de gameplay. Mais au-delà de ça, je les ai vraiment pas entendu parler d'un Zelda Maker. Après, sur la question même d'un Zelda Maker, oui, ce serait effectivement beaucoup plus compliqué. D'autant plus
que... Moi, je trouve ça brillant dans l'idée. Enfin,
ce serait.
On pense à RPG Maker, tous les clones de Zelda Link to the Past qui ont pu être créés comme ça, qui sont pas forcément des méga exemples, parce que moi, ce que je déplore toujours, c'est un petit peu l'intégration d'éléments de gameplay ou même visuels qui collent pas à l'univers. Tu vois tout de suite, tu sors du truc, du coup, hein, c'est pas, il faut qu'il y ait une cohérence graphique au minimum. Et là, Mais dans l'idée, moi, je trouve ça très très bien, un truc tout simple, une sorte de RPG Maker Skit Zelda. Je trouve que c'est pas foireux. Au contraire, je trouve ça presque limite plus intéressant qu'un Mario Maker au final.
Bien,
presque. Bah, je sais
ça,
pas.
Ça pourrait être intéressant.
Très curieux en tout cas.
Je trouve ça plus compliqué. C'est pas du tout dans les plans de Nintendo, en tout cas apparemment pas. Ça pourrait être intéressant effectivement, mais étant donné que Mario Maker fonctionnait sur l'idée d'avoir différentes générations de jeux Mario dans lesquels tu pouvais mettre tes niveaux, je vois ça beaucoup moins bien se passer, rien qu'entre Zelda, Zelda 1, Zelda 3, mettons, et Zelda Link's Awakening, ou Link Between Worlds, par exemple, en style moderne.
Bah, t'as plusieurs skins possibles au final. Hein, mais...
ça serait le skinné, mais disons, voilà, le seul jeu où, enfin, les deux seuls jeux où ça fonctionnerait vraiment, ce serait par exemple entre A Link to the Past et A Link Between Worlds. Mais derrière, c'est difficile de faire bouger certaines conventions d'un jeu à l'autre.
Et puis, t'as beau dire, entre créer un petit niveau pour un jeu de plateforme et puis créer un RPG.
Une aventure. Voilà.
Voilà, c'est pas le même temps, hein, quand même.
Exactement. Donc, limite, tu pourrais créer un donjon ou créer,
ouais,
je sais pas,
ouais,
ou créer une ville, je sais pas, peut-être, qui sait, mais je pense pas que ce soit là où ils vont aller, parce que le plaisir de jeu sur Mario est beaucoup plus immédiat et beaucoup plus simple, ou sur Zelda, bah voilà, ça serait beaucoup plus compliqué à tester, beaucoup plus loin à tester, enfin toutes les mécaniques de Mario Maker à mon avis se traduiraient très moyennement sur un potentiel Zelda Maker. Philippe Thomasier nous demande votre premier avis sur la qualité du service en ligne de la Switch et si le service justifie son passage payant d'ici la fin de l'année.
Wow, on n'en sait rien.
On n'en sait rien. Enfin, j'ai pas de jeu, j'ai pas Bomberman.
Moi non plus, ils me tendent pas trop. Apparemment, c'est pas ça. Hein. Les premiers échos, voilà. Ah,
pour faire simple, j'ai jamais eu de problème à me connecter sur l'eShop. J'ai jamais eu de problème à télécharger des mises à jour. Elles ont toujours été rapides. J'ai pas eu de problème à gérer. Enfin, si tu supportes les codes amis, à gérer les amis, ça fonctionne de manière stable également. Le seul problème aujourd'hui du online sur la Switch, c'est l'antenne Wi-Fi de la console.
Voilà. Moi, après, j'ai pas de problème avec l'idée de payer justement un abonnement. Faut savoir
surtout
que,
au prix annoncé qui semble être faible. Je crois que c'est quelque chose comme 1 à 2 dollars par mois, c'est ça?
Ah ouais? Oh,
c'est censé être très faible. Enfin, le prix, je vais vérifier ça, mais.
Si ça peut permettre à Nintendo de payer les serveurs et de garantir quand même une qualité pas mal, sachant que ça offrira un petit bonus. Alors, le petit bonus qui moi est en demi-teinte, j'ai un petit peu pesté aussi contre ça. Il t'offre l'accès un jeu classique, donc de la console virtuelle, pour la durée du mois, en fait. Mm-hmm. Ils te retirent l'accès après. Bon, pour découvrir, c'est bien. Ils auraient pu le filer, quoi, gratos, franchement. Voilà.
Tatsumi Kimishima, donc le président de Nintendo, le 1er février, qui déclarait que le service, alors il l'avait dit en yen, hein, et ça a été converti ensuite par boule à poire, justement, sur Gamecult, de 2000 à 3000 yens par an, c'est-à-dire de 16 à 25 euros par an. Ce qui est extrêmement raisonnable pour le coup.
Moins cher que la concurrence, en tout cas.
Moins cher que la concurrence, après faire payer pour du online. Et quand on n'a pas vraiment eu la confiance jusque-là avec Nintendo, c'est un petit peu dubitatif. Donc voilà, moi j'attends de tester ça, bah, justement avec probablement le premier jeu, ce sera ARMS en mars ou en avril. En avril, je crois. ARMS, puis Splatoon, puis Mario Kart. Non, dans le désordre. Vous voyez ce que je veux dire. JBC qui demande, peut-il y avoir d'autres Zelda à la Breath of the Wild ou est-il condamné à être un one-shot?
Bonne question.
Vu le succès, c'est pas impossible.
Moi j'ai envie de dire difficile de repasser à l'ancienne recette malgré tout. Hein, je les vois mal repartir à un truc très très cloisonné, très fermé parce que...
Mais qu'est-ce que tu fais après Hyrule? C'est ça le problème en fait.
C'est ça. C'est très beau ce que tu dis. D'ailleurs j'ai ma propre théorie, alors je me spoilais pas hein, par pitié, je crois savoir comment il s'intègre dans la... Il y a Navilink déjà qui est en train de se crever les yeux parce que je parle de la timeline de Zelda. Mais je trouve que c'est intéressant justement, on en a pas parlé, mais les clins d'œil qu'ils font aux autres épisodes, je crois qu'il y a des choses qui me font suggérer la fin. Et si c'est la fin à laquelle je pense, c'est couillu, merveilleux, et je veux à tout prix voir ça. Et on en parlera peut-être en off, toi et moi,
tu
après l'émission.
Non, moi j'ai aucune idée dessus, j'ai pas envie que tu m'infuses des idées, pour le coup.
Ah,
non,
écoute,
je ne vois pas du tout où ça peut aller, et ignorance is bliss, l'ignorance.
Bah écoute, ça me paraît presque évident en fait, mais je me trompe peut-être, hein, mais bon.
On verra.
Mais alors du coup,
on en reposera quand j'aurai terminé le jeu.
One shot clairement pas, je pense pas, parce que ça a cartonné, donc c'est évident que.
En tout cas de manière critique.
En tout cas de manière critique, mais je pense que enfin clairement il va cartonner aussi de manière commerciale. Ça m'étonnerait. Vu comment la Switch est partie de toute façon, je vois pas comment il en serait autrement.
Si ça continue, je continue de tempérer, mais ouais.
Mais Zelda à l'ancienne, je pense pas. Mais est-ce qu'ils vont peut-être faire des formules intermédiaires, essayer de réintégrer d'autres façons, remettre un peu plus d'objets peut-être. Enfin, je sais pas trop. Je suis pas dans leur clairement pas dans leur idée. Et vu comme ils sont à partir d'une toile vierge, hein, parce que là c'est exactement ce qu'ils ont fait quand même, mine de rien, en termes de gameplay et d'approche du jeu.
Je rappelle, hein, ce Zelda, il a été annoncé en même temps que le remake de Wind Waker HD sur Wii U en 2013. Donc, le prochain Zelda, je pense qu'on va le voir. On a le temps avant de le voir venir.
Ah oui, clairement. Donc, donc je pense que là, ils sont même pas encore réfléchi et ils peuvent très bien repartir vers une toile vierge. Et c'est même beaucoup plus facile maintenant. Une fois qu'ils ont fait la tabula rasa, maintenant ils peuvent le refaire autant de fois qu'ils veulent. En fait, j'ai l'impression. Les vieux cons comme moi vont s'habituer à ne plus retrouver du coup les vieilles mécaniques et du coup voilà, le jeu va pouvoir évoluer à chaque fois, à chaque épisode, pourquoi pas.
En Zelda 3D, quand même, entre-temps, on a eu les remakes de Wind Waker et de
Twilight.
Et de Twilight Princess, exactement, sur Wii U. On a également
bouclé
la
boucle, hein, au final.
Oui, non, clairement. Tu vois, on a également eu les remakes de Ocarina of Time et de Majora's Mask sur 3DS.
À moins qu'ils nous ressortent une Skyward Sword, mais peut-être que je le finirais s'il n'y avait pas le motion gaming dans Skyward Sword. Peut-être que je pourrais peut-être m'y faire malgré
Skyward
tout.
Skyward Sword avec le moteur de Breath of the Wild, ça peut se considérer, écoute.
Mais, quoi que s'il n'y a pas le motion gaming, ça va être compliqué pour certains objets, mais ils trouveront bien un moyen.
Ils peuvent faire du motion gaming avec les Joy-Con, justement.
Ouais.
Donc,
motion gaming qui fonctionne, je veux dire.
Ça peut s'arranger.
Ne pas secouer.
Quix pourra le refaire une deuxième fois.
Secouer pour pouvoir grimper sur une liane, quelle idée de merde, voilà.
Gotenski qui demande « Hello, le début des DLC dans Zelda, bonne ou mauvaise nouvelle pour vous ?» Alors rapidement, hein, le contenu du Season Pass, tout d'abord à l'activation, c'est 3 coffres au trésor avec des items complètement débiles pour t'habiller. Et 2 DLC packs, donc l'un qui sera mis en ligne durant l'été de cette année et l'autre durant l'hiver. Celui de cet été, c'est une cave des défis, c'est un nouveau mode difficile, je sais pas comment le mode difficile va fonctionner.
Genre, oui, c'est intéressant, parce que vu comment c'est difficile déjà.
Littéralement tous les ennemis te one-shot, peut-être, je ne sais pas. et également additional map features, c'est-à-dire du nouveau contenu sur la carte. Et puis pour le DLC pack 2 de l'hiver, une nouvelle histoire originale. Alors c'est probablement une ville en plus, ou une connerie comme ça, j'imagine, ou du scénario en plus avec des personnages ajoutés. Un nouveau donjon et également des challenges supplémentaires.
Bah écoute, moi je sais pas si c'est mon côté vieux con encore une fois, mais du DLC dans Zelda, je dis pas que ça me dérange, je monte pas sur mes grands chevaux, mais ça me fait bizarre. Malgré tout, ça me
sur
fait bizarre
de venir.
ouais, je sors mes vieilles expressions, mais mine de rien, ça me gratouille quand même quelque part, tu vois, parce que je sais pas, c'était une chaîne qui était tellement habituée à dire non, nous on fait des jeux complets, machin. Voilà. Là, l'idée que, bon, alors après, c'est des trucs, le mode difficile, ça, c'est, tu vois, c'est vraiment du gimmick en plus, mais l'idée que t'as des pans de scénario, j'extrapole.
En tout cas, un pan de scénario.
Un petit univers scénarisé supplémentaire, un bout de map, voilà, un petit caca en plus, ça m'embête pour le principe, parce que dans les faits, je vais prendre ce Season Pass, clairement. et voilà. Mais, bon, écoute, si c'est une manière pour eux de le rentabiliser davantage, parce que ça leur a coûté, s'il y a des gens assez cons comme moi qui le prennent, écoute, on va pas, voilà, enfin, je veux dire, pigeon, c'est tout, mais
comme tout le monde, hein, je suis intrigué par tout ce qui concerne le scénario de manière supplémentaire, donc je vais probablement le prendre.
Faut voir comment c'est fait. Écoute, si c'est un truc très bien conçu, un DLC qui vraiment vaut le coup, est-ce qu'on aurait tort de se priver au final? Tu vois, regarde, pense au DLC de Mario Kart 8 qui, franchement, va valer son présent de cacahuètes au
voilà,
final.
Les DLC chez Nintendo, c'est plus une nouveauté. Smash les a eu, Mario Kart les a eu, peut-être comme Mario Odyssey en aura. Très honnêtement, ça me surprend plus.
Faut s'habituer.
Ça fait depuis de Season Pass, on a eu un sur le Mario Golf de la 3DS. Ça va, c'est bon.
Ils ont résisté pendant suffisamment longtemps, on va pas non plus leur reprocher de s'y mettre et de faire comme tout le monde. Enfin, ce serait un petit peu hypocrite de notre part.
On parle d'une boîte qui a fait Super Mario Run quand même. Enfin, voilà. Ça va, ils sont conformés.
Donc au final, voilà. Et enfin, de manière globale sur le DLC en soi c'est pas une mauvaise chose, c'est faut voir au cas par cas, des fois t'en as vraiment pour ton argent.
Écoute,
et ça vaut vraiment le coup si le jeu t'a plu, au contraire de pouvoir prolonger le plaisir, pourquoi s'en priver au final.
Voilà. Vu le rush de développement sur le jeu et vu également le rush sur la sortie de la console, je pense qu'ils sont extrêmement sincères sur le fait que c'est du DLC et pas du contenu qui était vraiment déjà prêt là actuellement dans un tiroir. Ils attendent juste ça pour le sortir, dans le sens où le fait qu'ils mettent par exemple le machin de scénario à la toute fin en hiver, c'est littéralement parce qu'ils sont en train de bosser dessus en ce moment, je pense.
Oui, c'est fort probable, c'est fort probable. C'est peut-être des choses d'ailleurs qu'ils avaient prévu d'inclure de base et qu'au final ils ont pas eu le temps de finir, parce que c'est même fort probable que c'est aussi ça le cas, parce qu'il fallait sortir le jeu et la console, quoi.
Oui.
Ça, c'est aussi
parce qu'il faut
ce qui arrive souvent avec le DLC. Hein.
Il faut prendre la Scorpio de court. Il ne faut pas arriver en dernier.
Bah, écoute, pour le coup, je pense que... Après, c'est pas vraiment, ils ne sont pas vraiment en concurrence. Ce n'est pas le même public.
Ils ne sont pas concurrents, mais c'est de la place sur le marché quand même.
Évidemment, évidemment. Mais là, je pense qu'ils ont quand même flingué et la 3DS d'un côté et la Wii U quand même de l'autre. Je pense un petit coup quand même. Peut-être moins la 3DS que la Wii U
d'ailleurs.
La
3DS reste une option low cost. La Wii U, déjà la Wii U, tous les retailers, tous les magasins vont très joyeusement se débarrasser du stock très vite. Parce qu'ils en ont marre.
Clairement, ça va pas nous manquer à nous non plus. Il n'y avait plus rien qui sortait dessus. Hein. Faut pas se leurrer quand même. La console est morte depuis un an.
Ce que je vais adorer, ils vont écouler les jeux et les accessoires à prix ridiculement en bas d'ici quelques semaines. Ça va être merveilleux. Je vais kiffer. Voilà, c'est la fin de cet épisode. On va se refaire un petit claque de Joy-Con juste pour le plaisir.
C'est magnifique.
Vous pouvez nous écrire sur Twitter @lacartoucherk. Merci Lou pour cet épisode.
Ben merci à toi, un grand plaisir de te retrouver pour parler de jeux vidéo, ça faisait longtemps mine de rien.
Un épisode zéro, on se retrouvera évidemment en septembre. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode zéro. Faites-nous part de vos retours sur les commentaires sur radiokawa.com et également @lacartoucherk. Abonnez-vous au compte évidemment pour toute l'actualité liée à l'émission et puis rendez-vous en septembre pour le véritable lancement de l'émission en mode quinzomadaire toutes les deux semaines. Ce sera en septembre 2017. On a hâte d'y être et de parler de jeux vidéo, aussi bien sur ce genre de formule très particulière où on se concentre sur une actualité exceptionnelle, comme par exemple la sortie d'une console avec un gros jeu avec, ou simplement sur beaucoup plus de l'actualité, une formule beaucoup plus classique que vous aurez le plaisir de découvrir en septembre de manière tout à fait inédite. Voilà, passez une bonne journée ou une bonne nuit et à très vite sur Radio Kawa. Ciao.
Salut.
Radio Kawa.